RMC, 13h-15h, Stephen Brunch,
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
Salut à tous, il est 13h04, vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure de votre émission, le Stephen Brun, chaque dimanche, 13h-15h, avec un joli programme, on vous attend au 32-16 pour venir discuter, rigoler avec nous, et rigoler avec notre consultant d'aujourd'hui, c'est Erwan Abotraite qui est là. Salut Erwan.
Ça va mon Steph?
Comment vas-tu?
Ça va Erwan.
Ça va en plein. Comment sont passées tes vacances?
On dit du côté de la Canebière pour première. C'est la première de la saison, ouais. C'est ma troisième saison consécutive, donc j'aime bien. C'est la première. Je suis jamais aussi resté longtemps dans une équipe.
Non, c'est ta deuxième saison consécutive.
Troisième
déjà?
Bah alors, ça, sous le nom Stephen Brunch, c'est le deuxième. Mais je suis avec toi depuis 3 ans.
Très bien. T'es content?
Je suis ravi. J'attendais que ça.
Ton été s'est bien passé?
Mon été s'est très bien passé.
Très bien, parfait.
Alex, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu veux déjà faire un débat deuxième, troisième saison d'entrée?
Non.
T'attends pas le duel et l'émission,
hein? Je vais respecter les consignes, Alex. J'avais pas souvenir d'Erwan il y a 3 ans. Écoute, c'est-à-dire qu'il a pas fait une grosse presta, mais c'est pas grave.
Les amis, vous connaissez la nouvelle version du brunch. Cette année, on ne peut pas démarrer l'émission sans parler de ce dont on n'abordera pas dans l'émission, c'est la nouvelle séquence. Et justement, Stephen, je voulais savoir avec toi de quoi tu ne parleras pas dans le brunch aujourd'hui.
On ne parlera pas des Sir Williams, 90 ans cumulés, qui ont perdu au premier tour de l'US Open en double. voilà, c'était une belle ambiance parce que les Ricains, eux, ils sont gogo de ça, de voir le tennis vintage. Alors ça remplit les cours pour voir les Sir Williams jouer, perdre au premier tour. Alors ils ont fait un bon match. Et ce match-là était tellement passionnant pour la télé américaine que le Ben Shelton, Shapovalov, qui était quand même un troisième tour de l'US Open, a été relégué au second plan pour diffuser le match des Sir Williams. Elles ont perdu. C'était une énième wildcard pour elles pour jouer en double. Et puis pour info, elles ont perdu. Elles ont fait jouer 3 heures. Et puis après, elles se sont dit merci beaucoup pour la wildcard. La conférence de presse, on ne va pas y aller. Ça ne nous intéresse pas. Donc merci à elles. Et puis voilà. Puis rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle wildcard. Voilà.
Erwan, on ne parlera pas de quoi dans le match.
On ne va pas parler de l'exploit du Mali hier soir face à l'Espagne. On parle évidemment de basket et de la Coupe du Monde féminine qui bat son plein en ce moment. On est dans les phases de poule. Le Mali avait perdu son premier match face au Japon et hier face à l'une des favorites pour une médaille, l'Espagne, donc le Mali s'est imposé 82-73, emmené par une Sika Kone magnifique avec 19 points et 10 rebonds. Alors pour le grand public, peut-être que ça parle pas, mais le Mali qui tape l'Espagne, qui est une grande nation de basket, honnêtement, le match était assez exceptionnel.
En conversion de foot, ça correspond à quoi?
À l'OM qui bat le PSG, non?
Ça peut aussi correspondre au Mali qui bat l'Espagne au foot, voilà.
Très bien.
Il est chaud,
la troisième saison, attention. Justement, on posera peut-être la question à Gabi Williams, puisque la capitaine de l'équipe de France de basket sera avec nous dans le Stephen Brunch tout à l'heure. On parlera aussi de la fin du mercato en Ligue 1. Et notamment ce qui concerne l'Olympique de Marseille, puisqu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, n'en ont recruté aucun. Mais est-ce que ça change les ambitions de l'OM? Ça sera le premier duel du brunch dans quelques instants. On vous attend au 32-16, mais aussi sur le WhatsApp de l'émission 06-12-424-424. Est-ce que vous êtes team Stephen? Est-ce que vous êtes team Erwan? Croyez-vous aussi à 14h en une Ligue 1 disputée? Parce que ça démarre mal du côté du PSG, Stephen. Ça démarre mal. Là aussi, vous venez pour participer au duel avec Stephen et Erwan. Et puis on reviendra aussi sur le coup d'envoi de la saison de Top 14. Ça sera le coup de cœur de Stephen aujourd'hui. L'UBB doit tout miser sur le top 14, double champion d'Europe en titre. Ça, il s'en fout, il veut soulever un bouclier de Brennus avec Yannick Bruyère, Stephen Brun aujourd'hui.
Lui aussi surtout.
Et puis l'événement sur AMC cet après-midi. Pierre Gasly peut-il refaire le coup à Monza? Et oui, le Français a arraché la pole position hier lors des qualifs. Ça sera en direct sur AMC à partir de 15h et on en parlera avec Jean-Luc Roy tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de l'émission. Il y a aussi quelque chose de très important à aborder avec vous, puisque vous pouvez encore jouer avec nous à la grande prime de rentrée avec RMC. Le montant est exceptionnel. Il est à 48 125 euros et il va encore bouger aujourd'hui dans l'émission avec Stephen. Vous le savez, c'est l'événement sur RMC en jeu. La somme donc de 48 125 euros à laquelle on va ajouter soit 125 euros, soit 250, soit 500, soit 1000 ou même 1500 euros en tournant la roue. Donc dans le Stephen Brunch, au moment du top inscription, vous aurez donc 10 minutes pour envoyer prime au 7-32-16. Prime au 7-32-16. Restez bien à l'écoute d'RMC et du Stephen Brunch. On peut vous appeler à tout moment pour répéter donc le montant de cette prime et la remporter. C'est parti pour le Stephen Brunch. Et donc on démarre avec notre premier duel de l'émission. On passe au football. La fin du mercato change-t-elle les ambitions de l'OM? Avant de rentrer dans les débats, je veux savoir qui dit oui, qui dit non à cette question. Stephen?
Non.
Non, ça ne changera rien aux ambitions de l'OM. Erwan?
Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'inverse.
C'est parfait, ça lance bien le débat. Juste avant, on va accueillir notre cher
Jimmy,
spécialiste Flo Germain, qui est avec nous, qui va pouvoir nous aider à trancher sur ce débat. Salut Flo.
Salut, salut Flo. Alex.
Ça va?
Salut Erwan et salut Steve. Ouais, ça va, nickel. Hein.
Écoutez, en forme,
bien sûr. Ouais, vous êtes en forme vous aussi. Hein.
Bah, toi surtout. J'espère que les joueurs de l'OM sont en forme surtout.
Bah, c'est ça la question. C'est ça la question.
On saura ce soir, bien
l'OM
sûr.
L'OM de Strasbourg ou l'OM de Monaco. On verra dans la réponse tout à l'heure.
Bon, t'as entendu le débat, mon cher Flo. La fin du mercato change-t-elle les ambitions de l'OM? Vous venez nous dire si vous êtes Team Stephen ou Team Erwan au 32-16 ou au WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Je veux entendre Stephen nous dire. Non, pourquoi ça ne changera pas les ambitions de l'OM cette fin de mercato?
Bah, parce que en fait, Stéphane Richard, il est venu sur le plateau de Jérôme Bretagne cette semaine et les ambitions, même lui a eu du mal à les dire. Alors c'était encore avant la fin du mercato, mais même lui, il a eu du mal à fixer des ambitions.
Non, le mercato était fini.
Le mercato était fini, pardon. Ouais, et timidement, il nous dit, bah écoute, on vise les places européennes. Les places européennes, c'est 1 à 7 hein, cette année, puisque le septième, qui était Monaco, fait une coupe d'Europe. Maintenant, le problème, c'est que cet effectif-là, il est moins fort que celui de l'année dernière pour une équipe qui a fait sixième, même si sixième, la tournure de la saison, elle est partie en vrille aussi sur d'autres aspects, pas uniquement le terrain. Mais quand je vois le début de saison de l'Olympique de Marseille qui est contradictoire, parce que tu gagnes au Vélodrome contre Strasbourg et après tu prends une volée contre Monaco. Mais le problème, c'est qu'on me dit, on essaye de me vendre qu'il y a tellement peu de concurrence dans cette Ligue 1 pour prétendre être dauphin du PSG que n'importe qui peut y être. Alors, n'importe qui parmi les bonnes équipes de Ligue 1, mais j'ai l'impression que par rapport à l'Olympique de Marseille, il y a des équipes qui sont mieux armées que ça en fait pour faire dauphin du Paris Saint-Germain. Alors Bruno Genesio va avoir un travail considérable parce que le papier, l'effectif, les joueurs, c'est bien. Ce que tu en fais, c'est mieux. Et j'aspire à ce que Bruno Genesio fasse quelque chose de bien de cet effectif là. Maintenant, c'est un effectif qui est court sur pattes en fait. C'est que qu'à un moment donné, tu vas être dépendant des joueurs que tu as su garder, c'est-à-dire Amine Gouiri et Pacheco qui ont une énorme responsabilité sur la saison de l'Olympique de Marseille. Amine Gouiri, qui est le seul neuf de haut niveau de cette équipe-là, va devoir assumer une quarantaine de matchs et j'ai envie de dire, j'exagère un peu, je vais dire une quarantaine de buts, mais si l'OM veut avoir des ambitions, il va falloir qu'il en plante. Et Pacheco qui aujourd'hui, c'est un peu paradoxal, l'année dernière c'était un joueur correct, c'est pas une star mais un joueur correct, mais il pâtissait aussi de l'omniprésence de Greenwood qui monopolisait tout, et là il est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1 par défaut et un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Bah, parce qu'il n'a pas montré que c'était un très grand joueur de Ligue 1 pour l'instant. Pacheco, sur la saison qu'il fait l'année dernière, c'est quand même très irrégulier, il y a des flash correct, il y a des matchs où il ressemble dans un rôle moins, parce qu'il n'est pas concerné.
Dans des changements de compo, je vais y revenir.
D'accord, après il y a trop de carences dans cet effectif-là. Au niveau quantité devant, il n'y a pas grand-chose. Alors maintenant, on essaye de me vendre, et Flo, je ne sais pas si tu entends cette petite musique, attendez, Neil Mopé en backup, ça peut être correct, il était quand même assez vil, l'année dernière. Neil Mopé, plus personne ne voulait le voir.
Qui t'a vendu ça? Attention à tes fréquentations aussi.
Il y a une petite musique, tu veux dire Neil Mopé backup, ça peut faire la maille, si vous voulez. Plus personne en voulait à Marseille au Vélodrome de Neil Mopé, il est toujours là. Après, au milieu de terrain, moi, Højbjerg, Abdelli, ça va être les deux qui vont être titulaires. Après, c'est le désert de Gobi. Et en défense centrale, il y a du nombre, mais la qualité, mis à part Naïef Aguerd, je trouve que ça laisse à désirer. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, les places européennes, c'est bien, mais pour moi, les places européennes, ce sera plus 5, 6, 7 pour l'Olympique de Marseille.
Bon, c'est surtout en termes de profondeur d'effectif, en fait. Parce que quand tu regardes le 11, honnêtement, il peut faire le match. T'as la Ligue Europa,
t'as la Coupe de France.
Didier Deschamps appelle les impondérables, donc effectivement tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des imprévus et donc effectivement une profondeur de banc qui est délicate. Après devant, ce qui est pratique, c'est qu'on connaît quasiment tout le temps le 11 de départ parce que au final
Bruno Genesio, MPG, ça.
Ouais à MPG ou pour les infos aussi. Mais c'est vrai que devant c'est un petit peu court. Bon Mopé, il faudra voir si il retrouve un niveau qui est correct. qu'il a montré parfois de belles choses avec l'OM, même si au final l'année dernière Marseille n'en voulait plus, ou en tout cas Roberto De Zerbi. Mbagna, faudra voir comment aussi il revient. Il y aura peut-être des bonnes surprises chez les jeunes. Voilà, c'est aussi la mission de Bruno Genesio. Mais c'est vrai que quand il a dit c'était vendredi que ce serait irresponsable de parler de Ligue des Champions, un, je pense qu'il a raison, et oui. Deux, il est lucide.
Ah bah oui.
Il est lucide parce que déjà un, il va pas se mettre une pression démesurée, et c'est pour ça que Stéphane Richard aussi ne fixe pas d'objectif clair, parce que fixer un objectif, dire écoutez les quatre c'est possible vu l'effectif, non mais attendez, ce serait presque je trouve abusé par rapport à l'été que vient de vivre l'OM, par rapport exactement. À la saison dernière et par rapport au respect pour Bruno Genesio qui s'attendait quand même à un effectif un petit peu meilleur.
Et puis Flo, et puis Stéphane Richard, il connaît, alors même s'il débute là-dessus, il connaît l'environnement marseillais, les supporters marseillais. Si tu commences à le dire à RMC dans Rotten que tu veux faire top 4,
tu te traînes comme un boulet après.
Les supporters, ils l'ont en mémoire. Si jamais ça se passe bien,
ça compte. Mais du coup, vous êtes en train de me dire que Bruno Genesio, c'est le nouveau Giroud, quoi. Avoir des ambitions ou des objectifs modestes, bah, non, mais ça
il a aussi dit, Alex, que rien n'empêchait l'OM ou lui-même de rêver. Il a prouvé par le passé qu'avec un effectif un peu léger, il était capable de faire de très belles choses. C'est typiquement le coach qui arrive à attirer souvent le meilleur de ses effectifs. Donc ça veut pas dire qu'au fond de lui il a pas cette ambition, parce que Steve, tu prends ça un peu comme ça à la légère, mais c'est vrai que la Ligue 1, des fois il se passe des choses quand même.
Un
Lens en Ligue des Champions peut laisser des plumes. Les trois qui vont jouer le jeudi au-delà de Marseille, à savoir Lyon, Monaco et Rennes, peut-être qu'il y en aura un ou deux qui aussi vont accuser le coup. Lyon a dû vendre aussi en fin de mercato, donc il va se passer des choses dans ce mercato.
Alors la fin du mercato, cette saison, changera-t-elle les ambitions de l'OM pour Stephen? Non. On écoute maintenant Erwan qui lui est de la team oui.
Bah, Steph dit oui en fait.
Oui, moi je dis oui.
Il dit oui. Moi je vais dire non, parce que avec tout Steph, quand tu parles de ça, de l'actuel roster de Marseille, tu me fais un name dropping. Le problème c'est que heureusement le foot.
Ah bon, Genesio, il regarde les noms aussi qu'il a dans son équipe.
Heureusement que le foot c'est un peu différent. Il y a un bon coach qui est arrivé, qui connaît parfaitement la Ligue 1 et qui connaît bien le football. De deux, par définition, si personne est arrivé, ça veut dire que tout le monde était déjà là. Et que certainement, ouais, par des mecs qui sont déjà installés, oui, certes, mais tous ceux qui sont là étaient déjà là l'année dernière.
Oui, ou sont revenus.
Donc c'est des mecs qui connaissent le club, qui par rapport à la saison dernière, et pour moi ça c'est le gros point positif, vont tous savoir qu'ils vont jouer, qu'ils vont avoir un rôle important. C'est marrant que tu parles de Nil Mopé, on connaît ses qualités, on connaît ses limites aussi, je vais pas te survendre un mec, mais j'aimerais bien avoir ton avis Flo là aussi là-dessus. C'est que Nil Mopé, si tu lui dis, écoute-moi Kiki, cette année tu vas être un vrai backup, tu vas avoir des minutes, tu vas jouer, on va compter sur toi, c'est autre chose que De Zerbi qui lui disait, vas-y là-bas au fond il y a les restes, va voir ce que t'as. Je pense que
Dans
le discours,
il finissait en disant mon fils,
ouais. Voilà.
Pour Nil Mopé.
Ouais, d'accord. Dans le discours,
je suis pas sûr que De Zerbi n'a pas trouvé beaucoup de fistons, ouais, pour l'instant.
Ouais, fils qu'il avait pas reconnu à la mairie apparemment. Mais je trouve que tes joueurs à l'OM aujourd'hui, tu te dis ok, on a un effectif réduit. Il n'y a pas de superstars qui sont arrivés, parce que l'OM a beaucoup trop, à mon goût, voulu construire des équipes ces dernières années sur le mercato et sur des grands noms, coach inclus. Là, t'arrives, tout le monde est concerné, tout le monde sait qu'il va avoir un rôle à jouer. Et je pense que ça, dans le discours de Bruno Genesio, ça compte. Quand tout le monde est impliqué, quand tout le monde va adhérer au discours de Bruno Genesio, parce que tout le monde va être concerné sur cette longue saison, ça change tout que par rapport avec De Zerbi qui est arrivé où... L'année dernière, on ne comprenait rien à ce qu'il faisait tactiquement. Tu jouais pas, on te déplaçait. Ne serait-ce que le replacement de Højbjerg cette année, c'est intéressant. Alors oui, peut-être qu'il y a moins de name dropping à faire que ces années précédentes. Erwan,
je te rejoins sur les joueurs qui vont être en confiance, les joueurs qui vont avoir des minutes. Mais à un moment donné, des carences, ça reste des carences de joueurs individuels. C'est pas parce qu'ils vont être en confiance et ils vont savoir qu'ils vont avoir des minutes, qu'ils vont être dans le 11, que tout d'un coup, leurs faiblesses et leurs carences individuelles, elles vont être masquées, Erwan.
Alors, il y a un mercato qui va arriver en janvier. Oui, on va voir.
Vous allez vendre encore peut-être un peu.
On verra d'ici là ce qui se passe. Moi, je reste persuadé qu'en tout cas, sur cette première partie de saison, par le discours, par impliquer un peu plus des joueurs, il y a des leaders sur chaque ligne, je trouve. Et je pense que il n'y a pas volonté à dire que les ambitions de l'OM, après trois matchs de championnat, le troisième ce soir, on doit avoir des ambitions qui sont moins basses. On parle pas d'être champion de France. Moi, si ça se passe bien.
Tu joues à concurrence ce soir, hein.
Oui, exactement. Si ce soir tu gagnes contre le PFC, t'es à 6 points en 3 matchs. Il n'y a pas le Il n'y a pas le feu. Moi, je pense qu'il faut être très bon jusqu'à Noël et voir en janvier si on peut peut-être élargir cet effectif.
T'as 4 points d'avance sur le PSG si tu gagnes ce soir.
En plus, c'est incroyable. C'est fou.
Non, mais avec un calendrier, pour le coup, qui va se corser dans la foulée. Bon, Paris FC, déjà, ça reste un adversaire assez solide. Ils ont montré de belles choses.
Troisième club le plus dépensier.
Voilà, 80 millions d'euros. C'est ce que voulait vendre l'OM. Paris FC l'a dépensé. Pour résumer. Et puis, dans la foulée, il y aura Rennes, le Béchistas, donc pour voir aussi cette capacité à enchaîner avec la Ligue Europa et le PSG juste derrière pour un match assez chaud au Vélodrome. Donc oui, c'est vrai qu'en termes de concurrence et de capacité à répondre, on sera peut-être un peu fixé.
Mais Flo, le Béchistas qui a battu le Fener en plus ce week-end en championnat.
Voilà,
très bien.
Exactement.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Bah, parce que c'est-à-dire que c'est une bonne équipe.
C'est une très bonne équipe. Mais Flo, j'ai envie d'avoir ton avis, toi, qui est sur place. Comment tu sens les joueurs, le groupe, justement? Est-ce que les joueurs se disent, mais attends, moi,
est-ce que le groupe vit bien? Est-ce que le groupe vit bien?
Non, mais est-ce qu'en fait, moi, les mecs se disent, mais en fait, moi, je vais jouer cette année. Contrairement à l'année dernière, avec De Zerbi qui foutait des mecs en réserve, qui envoyait des joueurs dans n'importe quel club en Europe. Est-ce que là, les mecs se disent, ouais, mais attends, cette année, j'ai un coup à jouer?
Voilà, il y a ça. Il y a aussi une très, très bonne relation avec Bruno Genesio. Certains répondent que c'est souvent le cas en début de saison à Marseille, qu'on dépeint souvent une bonne ambiance et puis après ça se détériore. Honnêtement, je pense qu'il a fondé quand même des bases assez solides, Genesio, avec ses joueurs. Il y a eu l'épisode du Capitana pour Højbjerg qui a permis un petit peu de montrer qu'il était capable de se mouiller face à sa direction pour défendre son groupe. Donc ça a pas mal plu. Le fait qu'il ait retenu Paichao, sa bonne relation avec Guiri aussi, parce qu'il l'a connu ailleurs à Rennes et à Lyon évidemment. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes dans sa relation entre celle de Bruno Genesio et son vestiaire. Et puis c'est une réalité de dire qu'il y a des joueurs qui sont revanchards, ça très clairement, qui savent aussi qu'ils n'ont pas été à la hauteur, même s'ils ne sont pas les seuls responsables l'année dernière. Mais en tout cas voilà, chaque joueur a à cœur de montrer, de prouver qu'ils n'étaient pas forcément à leur niveau la saison passée, et voilà, montrer un autre visage. Donc tout ça, peut-être ça peut faire un coup de tel sympathique.
Allez, on va accueillir notre premier bruncheur du jour, c'est Joris qui nous appelle au 32-16, supporter marseillais. Salut Joris.
Bonjour messieurs, comment ça va?
Salut Joris, comment vas-tu?
Très bien.
Tu nous appelles d'où Joris?
Ça c'est mes accents, ça.
Un petit accent. Hein.
D'Arles.
Très bien. Djibril Cissé. Arles Avignon, oui, qui était cadet en Ligue 1 à un moment donné.
Arles Avignon.
Très bien. Joris, est-ce que tu es de la team Stephen ou de la team Erwan pour ce premier duel?
Et de la team Genesio.
Donc t'as confiance alors.
Donc t'as confiance. Un peu dans mon équipe quand même, Joris.
Non, on a traîné dans le mercato et on a vite compris qu'il n'y aurait pas de recrues, même si on espérait peut-être signer un joueur ou deux sur la fin. Mais on a surtout arrêté l'hémorragie et je rejoins ce qu'a dit Flo. C'est ce qui a fait que le groupe sera peut-être un peu plus derrière Genesio, même dans les moments compliqués. C'est qu'il fait comme souvent, ça arrive souvent dans les groupes de Bruno Genesio, il se montre toujours fort avec son équipe et un peu contre sa direction s'il a à le faire. Là, il a fait pour Højbjerg et pour Paichao, donc c'est bien pris par le groupe et c'est ce qui peut peut-être nous aider un petit peu dans la saison. Après, en termes d'équipe, il y a peut-être pas grand-chose pour se réjouir puisque on parle de si on finit dans les 7 premiers, ça sera bien, ce qui est quand même un petit peu dommageable pour l'Olympique de Marseille d'avoir ce genre de discours-là. Mais on en est un petit peu résigné, malheureusement. Mais
est-ce que vous êtes capable de l'accepter, ça, ce discours-là?
Ben après, sauf si on veut pas être honnête, on dit qu'il faut finir troisième et le dire comme ça avec l'effectif que nous avons, ça peut paraître complètement n'importe quoi. Mais non, il faut être honnête, il faut être lucide, il faut être humble. C'est ce qui a beaucoup manqué ces derniers temps. Et voilà, après, on a le droit de faire une bonne saison, on a le droit d'avoir une bonne équipe, une équipe forte, pas avec des individualités, mais une équipe qui est forte et qui se bat sur chaque match. Après, si on fait le plein de points, du moins qu'on n'en perd pas beaucoup contre les équipes de notre championnat, ça devrait aboutir à quelque chose. Après, si on perd contre Paris et une fois contre Lyon, et là, comme on a fait à Monaco, il n'y a pas de péril dans la demeure plus que ça.
Et dis-moi Joris, mon ami Daniel Riolo disait que le supporter de l'OM, ils n'aiment pas qu'on se fout de la gueule du maillot et qu'ils étaient prêts à accepter peut-être une équipe moins forte, mais des mecs qui se battent.
C'est exactement ça.
Vous avez à avoir cette indulgence-là.
Si l'équipe donne tout, mais même l'an dernier, ça vaut pour toutes les équipes, Flo, vous le racontez.
Oui, c'est vrai.
Toutes les équipes, de Bielsa jusqu'à Eli Bop, et même plus loin avec Ivic et compagnie, si vous voulez, tant que l'équipe court et donne tout, le stade et les supporters leur tiendront rigueur de rien. Après, l'an dernier, on choisit les matchs, on n'est pas sûr, on avait une équipe beaucoup plus forte. Hein. Moi, je suis persuadé que l'équipe de l'an dernier était très forte, mais elle a choisi ses matchs, elle n'a pas répondu à des moments, et ça a donné ce que ça a donné. Là, si cette équipe, avec les jeunes qui rentrent un peu, et des joueurs revanchards comme le Giflo, moi, je veux bien le comprendre, parce que ils ont de quoi être revanchards. Certains, on les pensait sûrs qu'ils allaient partir. Je vois que finalement, Hojbjerg, il est resté, Aguerd veut rester, et ben, ils n'ont qu'à nous montrer qu'on s'est trompé et qu'ils sont forts, et de faire une bonne saison. Après, comme tout le temps, hein, moi, si ce soir je vais au stade, mon équipe donne tout et qu'elle perd contre meilleur, ben, elle a perdu contre meilleur. Si par contre, on ne fait rien et qu'on a perdu, ben, là, non, elle ne sera pas d'accord, ça c'est sûr et certain.
Très bien. Bah, écoute, on va suivre ça avec attention ce soir au Vélodrome, OM Paris FC.
Merci, Joris, d'être passé au 32-16. Si je dois trancher, moi, dans ce premier duel, je vais dire que non, ça ne change pas les ambitions de l'OM. Trop d'instabilité, trop de flou. Et puis, tu n'es jamais à l'abri de blessures ou de conditions qui peuvent un petit peu changer le cours de la saison. On est habitué avec l'Olympique de Marseille. Merci, Flo Germain.
Merci,
Flo. Bon dimanche, bien sûr.
Ciao.
Marseille Paris FC à suivre sur RMC à partir de 20h45. Il est 13h25 sur RMC. Le brunch avance. On continue. On va passer au basket dans un instant avec Stephen Brun, avec Arwan Abotret et avec Gabi Williams, la capitaine de l'équipe de France de basket qui dispute actuellement la Coupe du Monde à Berlin en Allemagne. Elle est l'invitée de Stephen Brun. À tout de suite.
RMC jusqu'à 15h. Stephen Brun.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
Le Stephen Brun, je continue, il est 13h26 sur RMC avec Arwan Abotret et Alex Biggerstaff et c'est l'heure de prendre la direction de l'Allemagne, Alex.
Berlin, tu parles un peu allemand ?
Non, pas du tout.
Bah, c'est pas grave, il n'y aura pas besoin. Ich liebe dich. Ça sort d'où ça, Dreipunter.
J'ai pas fait d'allemand du tout.
Dreipunter.
Je l'ai même pas, toi. 3 points, tira 3 points.
Toi, t'as joué à l'Alba Berlin, sans nous le dire.
Ah, ils ont pas voulu de moi.
comme tant d'autres clubs.
Je suis allé faire une compétition internationale avec Arwan à Berlin.
Alors, les clubs de basket. Qu'est-ce que tu en retiens?
Les clubs de basket n'ont pas voulu de lui. Par contre, les boîtes de nuit un peu underground ont vraiment accepté Arwan.
J'ai fêté mes 40 ans à Berlin pour l'Euro 2020.
Ça, c'est chouette.
Et je peux te dire
de la night.
C'était sombre. Très sombre.
Tu veux pas aller
dans les troisièmes sous-sols de Berlin.
Allez, la suite du Stephen Brunch. On parle de basket et de la Coupe du Monde de basket avec l'équipe de France actuellement engagée. 2 matchs, 2 victoires. Tout se passe bien pour les filles de Jean-Aimé Toupane, même si elles ont été un petit peu bousculées hier contre la Corée du Sud. Succès 95 à 69. Tout va bien pour rallier les quarts de finale de la compétition. On attend quand même beaucoup de choses de la part de cette équipe de France et on va en parler tout de suite avec notre invité dans le Stephen Brunch. Stephen, on accueille la capitaine de l'équipe de France. Gabi Williams est avec nous.
Salut Gabi.
Salut.
Comment vas-tu?
Je vais très bien. Et vous?
On est en pleine forme, Gabi. Bien. D'abord, parle-nous un petit peu de ta nuit à l'hôtel qui a été perturbée.
Oui, à 2h30 du matin, il y avait une alarme qui a sonné. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, il y avait toutes les équipes qui étaient dehors. Mais heureusement, on n'a pas de match aujourd'hui. Mais je me sentais mal pour l'Australie et la Turquie qui jouaient à 11h30.
Ah oui, ça devait être compliqué pour elles.
Tu dormais également à 2h30, toi, ou tu regardais une série?
Non, en fait, vous savez, après le match, il y a un peu d'adrénaline. On a joué tard. Du coup, je viens de finir mes soins et voilà, alarme.
Il n'y a qu'une équipe qui n'a pas été pénalisée, c'est les États-Unis, puisqu'elles ne logeaient pas dans
cette tête-là. Ah bah oui, mais les States,
ils ne font rien comme le monde.
Bien sûr. Dis-moi, Gabi, j'imagine que tu es contente, la qualif directement en quart de finale. Vous avez battu les Hongroises facilement avant-hier. Hier, vous avez battu la Corée du Sud. Et hier, c'était un peu une journée particulière, parce que c'est la journée des surprises un peu à l'Euro. Le Mali qui a battu l'Espagne, la Hongrie qui a battu le Nigeria. Et crois-moi, à la mi-temps, j'ai eu un peu peur que la France soit partie de ces surprises-là sur cette première mi-temps face à la Corée.
Bon, je pense que ces deux matchs-là, c'était un petit rappel de ce que ça donne, ce genre de compétition. Tout est possible, surtout sur un match. Du coup, le premier carton, je pense que ça nous a réveillés aussi. Aussi, c'est un style de jeu particulier avec les Coréens. Donc oui, on a juste ajusté et ça a été après.
Mais j'ai vu une Gabi hier un peu énervée en mode trash talk. Hein. T'as beaucoup trash talké les joueuses coréennes hier, Gabi.
Non, ça va, une fois.
Mais elle est coréenne, elle mettait des coups hein, sur les réductions de distance. Bam, elles vous ont contacté, elles vous sont rentrées dedans dès le début du match, Gabi. Hein.
Oui, donc je pense que c'est pas ça. Je dirais pas que j'étais énervée, mais oui, comment elle se jouait, c'était, on va dire que c'était bien physique. Et donc je vais juste le faire comprendre qu'on va pas juste, on va pas plier comme ça.
Gabi, la qualif en quart de finale, il y a un jour de repos aujourd'hui. Demain, c'est contre le Nigeria. C'est quoi l'objectif de ce troisième match, sachant qu'il y a une préparation qui a été compliquée, bah, avec les joueuses de WNBA qui sont arrivées très tard. Est-ce que ce troisième match contre le Nigeria, il va continuer à servir un petit peu de préparation et à trouver des automatismes collectifs, ou au contraire, on va un petit peu reposer les joueuses qui sont éventuellement fatiguées par leur saison en WNBA pour se concentrer sur le quart de finale?
Non, on va rester. Oui, on va rester très, très compétitif quand même. Ce qui est bien avec notre équipe, c'est que ça va tourner. Moi, je pense qu'on a 12 joueuses titulaires. Donc, je pense qu'il n'y avait personne qui a joué plus que 30 minutes. On n'avait que 3 joueuses qui a joué plus que 20. Donc, c'est ça notre force. Et contre la Nigeria, oui, je pense qu'on va, on va jouer. On va essayer de gagner le plus possible et juste montrer à tout le monde qui on est.
Gabi, il y a une nouveauté pour toi sur cette compétition, c'est que maintenant on t'appelle Captain Gabi. C'est un rôle que t'as accepté tout de suite. Jean-Aimé t'a appelé au préalable, ou ça fait juste sur le rassemblement quand t'arrives avec l'équipe de France?
Non, Aimé, il est venu aux États-Unis pour nous voir. Ça nous a fait plaisir que, vu qu'on ne pouvait pas faire une préparation ensemble, qu'il est venu nous voir. Et on a discuté, il m'a juste dit qu'il veut juste que je reste moi-même. Parce que je me vois comme leader un peu sur le terrain quand même, même sur le rôle de capitaine officiel. Mais maintenant, j'ai un peu plus de responsabilité. Mais ouais, ça fait juste plaisir qu'il me fait confiance en vrai.
Justement, Gabi, pour aller un petit plus dans le détail de ce rôle de capitaine, alors sur le terrain, on le voit depuis les Jeux, même un peu avant, tu étais une leader, mais raconte-nous un petit peu au quotidien ce que c'est. On sait que des fois, quand il y a des filles qui sont un peu en colère à l'entraînement, quand il y a un accrochage, quand, dans les repas aussi, raconte-nous ce rôle un petit peu au quotidien dans la vie de l'équipe de France, ce qui change.
En vrai, je pense que je dois juste prendre des paroles un peu plus souvent. Et même si j'étais leader sur le terrain, quand t'es pas capitaine, en vrai, tu penses qu'à toi, à ce que tu dois faire, tu fais ton boulot. Mais là, je dois être sûr que jusqu'à 12, que tout le monde fait leur rôle au maximum.
Et est-ce que tu distribues les amendes aussi?
Oui. Non, je rigole.
Gabi Williams, la capitaine de l'équipe de France de basket et l'invité du Stephen Brunch. On rappelle, Gabi, qu'il y a quand même un poids historique sur les épaules de cette équipe de France, puisque en Coupe du Monde, malheureusement, ça fait 73 ans qu'on attend une performance des Bleus, alors que vous avez été quand même en finale des derniers Jeux Olympiques de Paris avec une performance incroyable, notamment face aux Américaines. Est-ce que, en tant que capitaine, on le vit encore un petit peu plus, eh bien, cet objectif de devoir combler un trou de 73 ans et donc la dernière médaille, on le rappelle, en Coupe du Monde, qui avait été ramenée par les Françaises en 53, c'était au Chili. Est-ce que ça pèse un petit peu?
Bien sûr, ouais. Et en général, je pense que c'est ça ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'écrire l'histoire avec cette équipe, avec l'équipe de France. Je veux que les gens ils se souviennent de mon nom, de tous nos noms, de ce roster pendant des années. Et donc, bien sûr, on a des attentes et des expectations ici. Bien sûr, on va faire jour par jour, match par match, mais on sait ce qu'on veut, et ça, c'est de gagner.
Et Gabi, on parle beaucoup de Team USA chez les filles qui dominent le basket mondial. Ça a été un peu le même problème chez les garçons. Les garçons, on a eu beaucoup de mal à affronter Team USA, et le fait qu'il y ait beaucoup de garçons qui arrivent en NBA aujourd'hui, on arrive à les regarder un petit peu les yeux dans les yeux. Vous, ça commence maintenant. Il y a de plus en plus de joueuses qui sont en WNBA qui affrontent ces filles-là au quotidien. Vous avez failli les attraper en 2024 chez nous à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de complexe à faire contre cette équipe américaine?
Oui, c'est les joueuses que tout le monde joue contre. On joue contre elles tout le temps maintenant. Et je pense que c'est ça un peu le problème avec les États-Unis, c'est tu ne sais pas quoi attendre jusqu'à tous les jeux jouent. Et donc maintenant qu'on a plus d'expérience, on sait comment les défendre. Parce qu'on... Et en vrai, elles font moins peur. Parce que c'est moins une surprise. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins talenteuses, ou ça reste toujours les States. Mais au moins, on a plus d'expérience contre elles. Aussi, je pense qu'on avait plus de joueuses qui sont parties pendant le off-season en Euroleague. Moins de joueuses qui sont restées en France. Du coup, ça nous donne juste plus d'expérience en général.
Gabi, on a tous en mémoire cette finale où on s'est vu gagner, on vous a vu gagner tant que vous avez bousculé les Américaines. Deux ans plus tard, il y a toujours ce sentiment de revanche. Et en plus, côté américaine, il leur manque leur meilleure joueuse, AJ Wilson. Il y a aussi Kelsey Plum qui est pas là. On a l'impression que c'est la bonne année pour les taper avant les Jeux.
Oui, en même temps, on ne sait même pas quand ou si on va jouer les States. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on reste concentré sur le Nigeria. On va voir pour le quart de finale. Mais notre tête, c'est pas du tout sur les States en ce moment. C'est sur nous.
Gabi, ce tir à 3 points qui finalement était à 2 points à Paris, est-ce que tu l'as revu un paquet de fois?
Oui, mais pour être honnête, c'est pas le play que je regrette le plus. Je pense qu'il y avait... Oui, bien sûr, tout le monde a parlé de ces dernières actions parce que c'est le plus flagrant, mais il y avait 50 000 trucs pendant le match que j'aurais pu changer, je pense.
On rappelle juste à nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers forcément avec le basket que Gabi Williams est née dans le Nevada aux États-Unis, mais qu'elle possède la double nationalité par sa maman et que sa grand-mère maternelle était née à Paris. Il y a un gros lien familial par rapport à cela. Moi, je voulais demander à Gabi Williams si sa maman, elle pleurait encore à chaque fois que Gabi mettait le maillot de l'équipe de France. Ça continue ?
Oui, ça continue. Et aussi avec ma grand-mère aussi. Ça, et c'est ça ce qui me fait le plus plaisir, que juste les voir heureuses et fières de moi.
Gabi, avant de te laisser tranquille, je vais quand même. On va finir par un petit tu préfères. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Je vais vérifier que éventuellement tu pourrais être ma pote, qu'on pourrait traîner ensemble. Donc je vais te poser des questions et tu vas me dire ce que tu préfères, ok?
Ok.
Est-ce que tu préfères la Marseillaise ou Star Spangled Banner?
Oh, les Marseillaises. Je pense que je ne connais plus les paroles même pour les Star Spangled Banner.
C'est vrai?
Parce qu'on ne fait jamais en WNBA.
Ah oui, exact.
Oui.
Tu préfères que je t'invite au concert de Céline Dion ou que je t'emmène voir Jay-Z au Stade de France?
Ah, Jay-Z.
Tu préfères un barbecue ou un resto fancy?
Resto fancy. Je suis vegan, du coup, je ne mange pas
beaucoup. On peut envoyer des légumes, hein. Tu préfères être championne du monde ou championne WNBA?
Championne du monde.
Le tir à 3 points ou dunk? Parce que je sais qu'à l'échauffement, t'aimes bien de voir si tu peux dunker.
Oh, ça fait longtemps. Tir à 3 points. Je suis âgé maintenant.
Tu préfères les Spurs ou les Knicks?
Les Spurs.
Tu préfères l'US Open ou tu préfères Roland Garros?
Roland Garros.
Et petite dernière question. Si jamais un jour je suis avec Laetitia et on t'appelle pour partir en vacances, tu préfères qu'on t'emmène au ski ou tu préfères qu'on aille sur la Côte d'Azur chiller sur un petit transat?
Ouh, peut-être pas les skis pour mes genoux. Mais si je suis avec Laetitia, je suis contente.
Tu veux faire Dave Chappelle ou Vincent Lagaffe?
Ni les deux.
Merci beaucoup Gabi. Bon match demain, bonne journée de repos et à très vite.
Merci.
Salut. Ciao, ciao.
Gabi Williams, salut, la capitaine de l'équipe de France féminine de basket, engagée à la Coupe du Monde, on le rappelle, à Berlin, en Allemagne. La France qui jouera son troisième match de groupe face au Nigeria demain à 14h30. Elle a déjà remporté ses deux premiers matchs. Elle est donc qualifiée pour les quarts de finale. J'ai l'impression qu'elle est très Stephen compatible, Gabi Williams.
Ah oui, je vais faire une petite confidence. Elle a joué avec ma compagne à Montpellier. J'ai fait un 31 avec Gabi Williams. Elle aime bien les New Year's Eve, Gabi. Dans la night, elle est très solide.
Gabi Williams, donc, en retrouver bien sûr en podcast, hein, parce que vous savez, l'émission Stephen Brunch est podcastable tous les dimanches, bien sûr. Le Stephen Brunch qui continue dans un instant, mais ça va être l'occasion de pouvoir jouer sur RMC avec nous. J'espère que tu es prêt, Stephen. Non,
c'est Erwan. Erwan a toujours rêvé de faire ça. C'est Erwan qui va tourner la roue.
Bah alors, c'était pas Vincent Lagaffe, la roue, je crois, à l'époque.
C'est Alexis, qui l'a fait juste, la roue. Il l'a fait juste prix. C'est moi qui vais tourner la roue.
Ouais, c'est toi qui vas tourner la roue.
Allez, top. Top inscription, c'est le moment de l'alerte pour continuer de jouer avec la prime de rentrée RMC. C'est le moment donc pour jouer avec nous. La prime de rentrée est actuellement à 48 125 euros. Erwan Abotret vient de tourner la roue et on va rajouter 500 euros donc en plus à la prime de rentrée RMC. Stephen, tu es très bon en maths, ça fait donc 48 625 euros.
Voilà, j'ai pas eu très peur de tomber sur 125 euros. Le plus petit chiffre est vraiment là que je serais dit, mais il n'y a vraiment rien pour moi.
Allez, attention, soyez attentifs. On ajoute donc 500 euros à la prime de rentrée. RMC est donc désormais de 48 625 euros. Vous envoyez dès maintenant prime au 7 32-16, prime au 7-32-16. Vous avez donc 10 minutes. Il est 13h39 jusqu'à 13h49. Vous pouvez jouer avec nous. Restez bien à l'écoute des RMC. On peut vous appeler à tout moment pour répéter le montant de cette prime et donc la remporter. Bonne chance à toutes et à tous. Le Stephen Brunch continue dans un instant. On parlait un petit peu basket, un petit peu États-Unis avec Gabby Williams. Bah, on va aller aux États-Unis, Stephen, puisqu'on va rejoindre Flushing Meadows. Bien sûr, l'US Open qui se déroule. Il reste encore un Français en lice, mais Stephen va nous pousser son coup de gueule du jour dans un instant. Venez avec nous au 32-16, à tout de suite.
RMC, Stephen Brunch.
Alex Bigastaff, Stephen Brun.
13h40 sur RMC, la suite du Stephen Brunch avec Arwan Abotret et Alex Bigastaff. Et on va aller faire un petit coucou à Eric. Salut, non, c'est l'heure.
Normalement, il est debout.
Réveillé, Eric.
On peut tester, mais normalement il est debout. On va parler tennis, ça va être le coup de gueule de Stephen dans ce Stephen Brunch. C'est la nouvelle formule cette saison. Et oui, Stephen pousse des coups de gueule désormais, ouais. quasi hebdomadaire.
Hein,
ouais,
essayez.
T'es pas convaincu sur ton propre.
Si.
Ok, très bien. Bon, bah déjà, on va voir si Eric Salio est debout du côté de New York. Bonjour, good morning, Eric.
Good morning, guys.
Salut, Eric, comment vas-tu?
Je viens de me réveiller là.
7h40, il est?
Ouais.
Très bien. Et dis-moi, à New York, est-ce qu'il y a encore des traces du titre de champion des Knicks?
Oh, j'en sais rien.
Moi. Non, mais quand tu parles avec les gens et tout ça, non, il n'y a pas de. C'est retombé déjà?
Pas, moi, je parle
pas. Ah, tu parles pas, gens, d'accord, ok. Ah, ok. Merci, Eric. Moi, je parle pas, il me dit.
Bon, on rappelle qu'il reste un Français à l'US Open et c'est sans doute celui qu'on attendait le moins en deuxième semaine. C'est Arthur Géa, 21 ans, 87e mondial, qui a éliminé Zheng hier et qui se retrouve donc propulsé en 8e de finale, le premier de sa carrière en grand chelem. Il affrontera un Néerlandais, donc au prochain tour. Et là, je défie Stephen. Est-ce que tu peux m'épeler le nom de Botic, 22 ans de
trip? Ah, épeler?
Ouais.
Non, pas du tout.
On n'a pas le temps pour ça. Ok. 70e mondial, 1m91, un beau buffle.
Ouais, c'est un bon joueur de tennis qui a des hauts et des bas. Là, il a l'air plutôt en forme. Maintenant, pour aller en quart de finale d'un grand chelem, je disais la même chose pour aller en huitième quand tu joues un mec qui est 70e mondial, c'est une opportunité exceptionnelle pour Arthur Géa. Écoute, on va voir comment il va récupérer de son match en 5-7.
Très bien. Tu as un coup de gueule à pousser.
C'est pas,
aujourd'hui.
C'est un coup de gueule, mais c'est en fait sur une vision globale du tennis actuel. Et peut-être que ça changera d'ici quelques années. Mais quand je vois d'ailleurs ce tableau de l'US Open, quand je vois justement Arthur Géa ou des Botic, Van de Zandschulp qui sont en huitième de finale, je me dis qu'en fait le top du tennis mondial va très mal en fait, et ça me rappelle quand j'en avais fait justement pour l'émission une interview avec Joe Wilfried Tsonga qui lui c'était pas pour taper sur le tennis actuel, mais il disait moi quand j'ai gagné mon Masters 1000 à Toronto à l'époque, je crois que c'était en 2014, Eric, hein, dis-moi si je me trompe, je bats quand même Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer et Grigor Dimitrov. Ça a quand même une autre gueule qu'aujourd'hui, quand il y a des mecs qui gagnent des Masters 1000 par surprise. Alors on peut me dire, tu parles d'Arthur Fils, oui, peut-être d'Arthur Fils, mais il y a d'autres garçons qui ont gagné des Masters 1000. Et en fait, aujourd'hui, le top 10 actuel, il est très peu fiable, mis à part Zverev, Alcaraz et Sinner. Et après, c'est très mouvant. À l'époque, ça n'existait pas, en fait. Les mecs du top 10, t'avais Federer, Nadal, Djokovic et Andy Murray et Wawrinka qui ont gagné des grands chelems, mais t'avais des Berdych, t'avais des Marin Cilic, t'avais des David Ferrer, t'avais même Joe Wilfried Tsonga et Richard Gasquet. Ces garçons-là, ils restaient un moment dans le top 10, et quand il y avait grand chelem, tu savais que en huitième ou en quart, t'allais retrouver quasiment 7 ou 8 joueurs du top 10 qui étaient là, qui est présent. Aujourd'hui, ça bouge systématiquement, en fait. Et moi, j'ai pas. Aujourd'hui, un mec qui est 7e, 8e ou 9e mondial, il peut se faire taper par un mec qui est 50, 60, 70, voire plus. À l'époque, ça a dû arriver, bien sûr, vous allez me trouver des exceptions, mais c'était excessivement rare de voir des mecs du top 10 se faire attraper par un pimpin qui est 80e mondial. Aujourd'hui, c'est le pain quotidien, en fait, de ces garçons-là. On me dit qu'il y a une énorme densité. Ouais, ok, peut-être que les mecs du top 100 aujourd'hui sont très proches des mecs du top 20 ou du top 30. Mais je trouve que c'est une densité par le bas, et qu'aujourd'hui on a du mal à s'y retrouver parce que le top 10, il est sans cesse en train de bouger et les gens ont besoin de repères, et je trouve ça un petit peu malheureux. Alors c'est très bien pour des gens qui ont des opportunités, et le meilleur exemple de cette instabilité là Malheureusement, il est français. C'est Arthur Fils qui est 10e mondial. Il est 10e mondial, Arthur Fils. Il gagne un Masters 1000. Il se fait attraper au premier tour d'un grand chelem. À l'époque, des mecs qui gagnaient des Masters 1000 ou qui étaient top 10, ça ne perdait pas au premier tour. Et voilà. Et ça m'énerve. Alors, c'est bien ou c'est pas bien pour le tennis? Je pense que c'est pas bien. Et aujourd'hui, le tennis.
Il
se fait pas attraper par un pimpin. Il se fait attraper par Tsitsipas,
oui,
certes.
C'est un mec qui a un meilleur CV que lui.
D'accord, ok. Aucun meilleur CV, ok, parce qu'il a fait deux finales de Grand Chelem.
Mais
nous on n'en a pas fait. Mais sur ces dernières années, il me semble que Arthur Fils est quand même un meilleur joueur de tennis que Stefano Tsitsipas. Bref, peut-être que le tirage est mauvais. Mais à l'époque, en 2014, 2015, 2016, les mecs du top 10 qui pouvaient prendre un mauvais tirage, ils se faisaient pas attraper, Eric. Hein.
Il y avait moins de surprises, mais là, le circuit a énormément progressé, tu l'as dit, la densité est énorme. Maintenant, quand t'es top 10, t'es pas tranquille au premier tour d'un grand chelem, parce que...
c'est ça qui a changé.
Ultra fort,
Ces mecs sont ultra forts ou ces mecs du top 10 qui sont moins forts?
Il y a moins de talent dans le top 10, je suis d'accord avec toi.
Eric Stephen nous dit, j'ai mal à mon tennis, en gros. Oui, est-ce que t'as mal à ton tennis, toi, un peu?
Le tennis, il s'en moque, hein, de ce que pense Stephen. Hein. Il y a des beaux matchs. Hier soir, il y avait un super match entre Lerner Tien et notre ami Bassi, Mensik. Ça soulève les fous.
C'est super, d'accord. Le tennis est tellement en grande forme que sur la télé américaine, ils préfèrent passer le double des Sir Williams que Ben Shelton contre Shapovalov.
Comment ça, il préfère passer le double?
Il peut pas savoir, il était au stade.
Steph, est-ce que
le programme en match 1 de la Night Session, parce que c'est les Williams, mais derrière il y avait Ben Shelton.
Ah oui, d'accord.
Ils ont pas fait l'impasse sur le match de Shelton.
Les gens sont plus passionnés.
Arrête de sortir des fake news.
Mais c'est pas une fake news. Les gens sont plus passionnés pour un double des Sir Williams que pour Ben Shelton Shapovalov, parce que c'est plus excitant.
C'était bien vu de leur part. 3 heures de match. Même moi, j'étais pris par le spectacle.
Mais t'as un pimpin, t'es un gogo, toi. T'es un gogo du tennis.
Steph, Eric, est-ce que comme
tu préfères voir John McEnroe contre Lee Nastas à 70 ans sur le Arthur Ashe, toi?
Ah non.
Eric, est-ce que le niveau global du genre tennis de moyen professionnel n'a pas augmenté sur les 10 dernières années, ce qui explique
ce que tu dis, Eric.
Ben voilà, mais c'est ça, on le voit nous en NBA où les joueurs de banc il y a 20 ans, c'était des mecs moyens et aujourd'hui le joueur de banc, il est capable de faire des choses incroyables.
Enfin les superstars restent des superstars quand même en NBA, Erwan.
Oui, certes, mais si le niveau ils sont tout seuls les mecs. Donc si le niveau moyen général du tennisman qui est 50e mondial, j'ai une bonne question pour vous. Est-ce que le joueur qui est top 50 cette année, il mettrait une rouste au mec qui était top 50 il y a 10 ans?
Eric.
Attends, tu l'as refait la question?
Le joueur du top 50, qui est 50e mondial maintenant, est-ce qu'il mettrait une rousse au 50e mondial il y a 10-15 ans?
Ouais, je pense. Ouais.
Ben voilà.
Je pense que maintenant tout le monde est ultra bien préparé. Ouais,
c'est une très bonne question, Erwan.
Ils ont tous des équipes autour d'eux, préparateurs physiques, diététiciens, enfin tout, spécialistes du sommeil. Non, bien sûr, mais c'est devenu un business le tennis. Il y a tellement d'argent que voilà, t'as une équipe incroyable.
C'est quand même fou aussi que. Alors, bien sûr que vous allez me dire, c'est parce que les mecs sont plus forts, voilà. D'accord, mais aujourd'hui, Eric, est-ce que tu trouves pas que sur les grands chelems ces dernières années, il y a de plus en plus de mecs wildcard, voire lucky loser, qui arrivent à passer 3-4 tours sur un tournoi du grand chelem?
Pas tant que ça.
T'as pas envie d'être d'accord avec moi. En fait,
Stéphane.
Il est pas obligé.
Arthur Géa, c'est un faux lucky loser. Il a perdu au troisième tour, il savait qu'il serait repêché. Donc voilà, il est 80e mondial, il aurait pas dû faire les qualifs, on est d'accord.
Oui, parce que, on va pas revenir sur le wildcard.
Des mecs qui sortent de... Il sort pas nulle part quand même, Arthur Géa, il a gagné un titre cette année.
Los Cabos en 250, ok.
Oui, mais enfin, il bat quand même des bons mecs.
On rappelle qu'il était 244e mondial en janvier dernier.
Bah oui, il a explosé à l'Open d'Australie. Il sort des qualifs, il a failli battre Stan Wawrinka. Les mecs.
Très bien. Le tennis va bien alors, Eric. On s'inquiète pas.
Je dis pas que le tennis va bien, mais c'est une autre ère. Maintenant, peut-être que la deuxième semaine va être géniale. Maintenant, c'est vrai que hier, je faisais mon podcast. Le tableau féminin est
court numéro 1.
Plus sexy.
Le tableau féminin, il y a toutes les favorites sont là.
Sexy. Mais alors, qu'est-ce que tu vas dire? Il y a 25 filles qui gagnent des chelems sur les 20 dernières années ou sur les 10 dernières années. Est-ce que ça te pose un problème?
Bon, oui, ça me pose un problème. Moi, je préférais quand il y avait Serena Williams.
T'as beaucoup de problèmes, toi, dis donc. Hein.
J'ai beaucoup de problèmes, non.
Et on essaie de les régler dans
l'émission. Tout va bien dans ma vie, Eric. Mais je m'inquiète de mon sport que j'aime, en fait.
On rappelle qu'il y a quand même encore des beaux noms en course dans cette US Open, puisque Carlos Alcaraz est toujours là. Sacha Zverev également. Ben Shelton. Medvedev aussi sont encore là. Bon, il y a encore du bon monde. On va poser la question, tiens, à Toro qui est avec nous au 32-13, Stephen.
Toro, il joue au boules, lui.
Salut Taureau, ça va?
Au Bulls et au PSG. Salut à tous. Merci beaucoup.
Tu nous appelles d'où, Taureau?
Je suis en Île-de-France.
Et toi, mais Taureau, ouais, c'est ton vrai prénom, Taureau?
Ouais.
C'est quelle origine?
Ah, je suis espagnol.
J'ai pas compris.
Je suis espagnol.
Ah, espagnol, ok. Très bien, Taureau. Donc, dis-nous un peu de ton tennis, t'es d'accord avec moi ou tu...
Je trouve qu'il y a un monsieur quand même qui est très énervé ici à l'antenne.
C'est qui? C'est Eric Salio.
En fait, aujourd'hui, il y a une redistribution de cartes dans le tennis mondial. Ça, c'est une certitude. Mais je sais pas pourquoi on va crier au scandale quand on voit des lucky losers qui arrivent en 8e du final. Je trouve ça beau. Pour le joueur, faut respecter son parcours.
J'ai pas dit que c'était pas beau, Taureau. J'ai dit que c'était pas normal.
Il a pas eu non plus des gros adversaires. Et puis, il faut accepter aussi la performance de ce joueur-là. Et moi, je trouve ça beau aussi. Regardez, dans les années 90, le tennis, on avait des super joueurs comme Boris Becker, Mats Wilander, Boris Becker et Stefan Edberg. Et ils n'ont pas non plus remporté tous les tournois du Grand Chelem. Et par moments, ils se faisaient aussi sortir en première semaine des tournois qui n'étaient pas leur surface de prédilection. Donc aujourd'hui, il y a une redistribution du cartes. Il y a des géants qui viennent d'arrêter. Et c'est vrai qu'il y a une grosse bataille. Il y a une grosse bataille pour la première, deuxième et troisième place, mais aussi une grosse bataille derrière. Après, c'est vrai que le tennis français, aujourd'hui, il ne se porte pas au mieux. C'est une réalité. Mais il y a un petit problème de fond par rapport à ça aussi.
Mais justement, Toro, quel bilan tu tires là, du tennis français sur cette US Open?
Il est très faible, on ne va pas se mentir. Il est très très faible. Parce que les chances de notre lucky loser... Arthur Gia, je pense que 8e de finale, c'est jouable, ça va être difficile, mais après, ça va être très compliqué. Il a encore des gros joueurs dans ce tournoi, donc ça va être compliqué, mais il aura fait quoi qu'il arrive un très gros tournoi. Mais c'est vrai que le bilan global, il est pas bon. On attendait forcément une meilleure performance d'Arthur Fils. J'étais un petit peu surpris de son discours avant le tournoi qui disait que sur les matchs de Masters 1000, il gérait mieux parce que c'était au meilleur des trois manches. Et que là, en 5-7, il n'avait pas trop l'expérience et l'habitude de jouer ces matchs-là. J'étais un peu surpris par ce type de discours. Mais je pense quand même que c'est un joueur d'avenir pour le tennis français. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a peut-être Maurice Coimet, mais il va falloir attendre encore un petit peu pour lui.
C'est le poulain d'Eric, ça.
Mais c'est vrai que le tennis derrière, il est un petit peu faux. Donc, il faut se poser des grandes questions. Moi, j'ai eu la chance de jouer au tennis un bon niveau amateur, et je peux vous assurer, si on peut se dire les choses franchement à l'antenne, moi je vous dirais les choses franchement, sans manquer de respect à qui que ce soit, mais il y a 75% d'entraîneurs de tennis en amateur qui sont pas à leur place. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une réalité.
C'est une problématique qui est évoquée depuis un moment déjà que les entraîneurs font pas le boulot. Mais pour revenir sur
ce... En amateur, hein, oui, mais c'est déjà...
Mais pour revenir à ce que tu dis sur Arthur Fils, et quand on voit le parcours de Tsitsipas, finalement, tu t'aperçois qu'il a joué contre un bon joueur de tennis. Mais il y a eu beaucoup de débats sur l'attitude d'Arthur Fils sur ce match-là. Moi, en fait, l'attitude d'Arthur Fils, quand on dit le boulard, moi, en fait, c'est pas un problème pour moi d'avoir le boulard ou d'avoir une attitude un peu arrogante. Son problème, Arthur Fils, c'est d'avoir le drapeau bleu, blanc, rouge et d'avoir cette attitude-là. Parce que des mecs qui ont le boulard, qui ont des attitudes arrogantes et qui se la racontent dans notre sport avec Erwan en NBA, il n'y a que ça. Partout. Les mecs qui mettent trois paniers, en moonwalk, ils vont trash-talker l'adversaire. Il n'y a que ça. Mais personne ne leur dit rien. Sauf que nous, ça nous choque un peu parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait, d'avoir un mec un peu arrogant, un mec un peu d'ambition.
Ce qui est fou, c'est que le public français dans le sport, on adore les mecs arrogants quand ils ne sont pas français.
Oui.
Quand ils sont français, ils ont la grosse tête.
Exactement.
On se souvient de Tony Parker, on se souvient de Rudy Gobert qui avait dit je veux être le meilleur défenseur de l'histoire. Tout de suite, quand c'est français, on se dit ah, il se la raconte. Par contre, on admire les autres qui font ça. Ça, c'est quand même un sacré paradoxe.
Le public français, il est très très dur, je suis entièrement d'accord avec vous. Et Arthur Fils, pour le connaître un petit peu de loin, c'est un garçon très travailleur et assez humble. Il donne une image peut-être à la télé qui n'est pas en réalité. Parce que moi, je l'ai déjà vu sur les terrains d'entraînement. Franchement, tout donner rien qu'à l'entraînement, donc je peux vous dire que c'est un garçon quand même assez humble et que des fois on juge un peu trop vite derrière l'écran.
Taureau, il nous a placé, moi j'étais un bon petit joueur amateur, je connais bien Arthur Fils, il a dû nous dire j'ai mis 2-2 à Arthur Fils il y a 3 semaines.
Taureau, il est en Île-de-France, il peut peut-être jouer contre Steve, hein.
Taureau, tu joues encore? Tu joues encore?
J'ai arrêté avec la période Covid, ça a mis un gros coup dur au tennis, mais je suis passé 4-6 en commençant à 30 ans. Et je suis passé à 4-6, parce que moi j'étais dans le foot avant.
D'accord.
Et j'ai commencé le tennis à 30 ans. Et à 40 ans, j'ai eu mon meilleur classement 4-6.
Très bien. C'était quoi ton exercice préféré quand tu faisais du foot à l'échauffement, taureau?
C'était taureau, justement. C'était taureau et le jonglage.
Merci beaucoup, taureau, d'être passé au 32-16.
Dernier petit message, allez Paris, merci beaucoup.
Paris FC ou Paris SG?
Paris SG.
D'accord.
Ça s'entend dans le champ de vin. Merci beaucoup.
Bah, Eric, c'est quoi le programme aujourd'hui?
Bah, il y a un match intéressant entre Alcaraz et Tommy Paul.
Oui.
Attention, là, il y a un gros danger.
Je pense que Tommy Figure, il peut le faire ou pas?
Ça, pas de marque, alors, s'il te plaît.
Mais t'as vu qu'il y a eu une petite polémique avec Carlos Alcaraz, puisqu'il jouait avec un t-shirt tellement échancré.
Ouais, on voyait son téton, ouais. Incroyable.
Tour, il a mis un Marcel.
Parce il a mis un dry fit, ouais, en dessous.
Ouais, c'est quand même assez.
Tu sais comment sont les Américains.
Oui. Enfin, après, c'est pas la première fois que les Américains vont voir un téton en prime time, hein. On se rappelle de, c'était qui?
Janet Jackson,
avec Justin Timberlake.
Eric, sur quel match on peut pronostiquer peut-être en une énième surprise dans cette US Open, dans ces huitièmes?
Je sais pas.
T'aimes bien ce Medvedev Tiafo là?
Ah oui, ça serait génial sur le Armstrong. Il est invaincu sur le Armstrong, Tiafo.
Le Chelten Tsitsipas, ça peut être pas mal, non?
Ah oui. Je vais peut-être rester ce soir, oui, quand même. Je vais peut-être rester voir les matchs.
Ah, parce que d'habitude, tu te barres.
Et si tu vois, il faut faire des impasses, parce que quand tu finis régulièrement à 3h du matin, le Zverev...
Alice, t'as fait mal, le Zverev, Alice.
Ah, il m'a fait mal, celui-là. Le Zverev, Chapovalov. Non, le Zverev, c'était quoi, il y a deux jours? J'ai plus rien. Non, c'est Chapovalov, Shelton. J'ai fait l'impasse, là, j'avoue.
Bah, très bien.
Il y a encore 5 Américains, c'est ça, encore en lice.
Ouais, Van de Sandschulp, c'est un. Bah, il a deux références. Il a battu Alcaraz il y a 2 ans ici.
Ouais.
Et puis, c'est lui qui a mis un terme à la carrière de Rafa Nadal. Tout le monde s'en souvient.
Bien sûr. Il
fait pas. Ah, bon mec.
C'est alors. Un garçon qui rigole jamais sur un court. Mais on va voir. Mais Arthur Géa, c'est bien, super. Moi,
très bien. Bah, pour terminer, Eric, tu peux épeler Van de Sandschulp?
Van de Sandschulp, oui.
Ouais, bah, vas-y.
Bon, non, mais vous le savez.
Bah oui, c'est Z-A-N-D-S-C-H-U-L-P.
Un peu voilà. Lever des Z, c'est plus simple.
Ouais, ça t'aurait aidé à bien te lever ce matin.
Il y a un Belge en 8e aussi. Alexander Blocks.
Très fort. Blocks.
Très bon.
Ils auraient dû en avoir un deuxième, mais Bergs, il a perdu sur VDZ, ouais.
Très bien. Merci beaucoup, Eric Salio. On te retrouve cet après-midi.
Bon, va dégommer
les 8e de finale de l'US
Scramble Hex.
Une petite pâtisserie asiatique, mais il y a des madeleines extraordinaires. Arrête. T'as l'impression d'être en France et t'as des chansons françaises dans cet établissement de qualité. Je ne vais pas le citer, bien sûr, mais.
Ça passe en note de frais, tout ça, les madeleines?
Ah, bah, bien sûr.
Ça mérite un papier sur le site d'RMC Sports.
Je t'assure, pâtisserie extraordinaire. J'ai l'impression d'être à la maison.
Très bien.
Bah, tout va bien. Alors,
merci, Eric.
Merci, Eric Salio. Vous le retrouvez, bien sûr, tout au long de l'après-midi sur RMC. On suit l'US Open et les huitièmes de finale. Et encore un Français engagé, on le rappelle, Arthur Géa. Il est 13h58 sur RMC. La deuxième heure du Stephen Brunch arrive dans un instant avec Arwan Abotret, avec Stephen Brunch. On vous attend, vous les brunchers, au 32-16 et aussi sur le WhatsApp de l'émission 06-12-424-424. Dans quelques secondes, il y aura le deuxième duel de l'émission. Attention, croyez-vous en une Ligue 1 disputée cette saison, puisque le PSG piétine, il est déjà à 7 points du leader de la Ligue 1 Monaco après 3 journées. Ça fait des frissons, ça, Stephen. Je sens que ça te fait peur.
Des frissons, ça donne des ambitions à Erwan, surtout.
Ah, ça donne des ambitions à Erwan. Croyez-vous en une Ligue 1
disputée? Même pas, malheureusement.
Vous nous rejoignez pour le duel entre Erwan et Stephen dans un instant au 32-16. A tout de suite, les infos arrivent.
RMC, 13h-15h. Stephen Brunch.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
14h05 sur RMC, le début de la deuxième heure du Stephen Brunch avec Erwan Abotret, Alex Biggerstaff. Si vous avez loupé la première heure, bien sûr, émission et podcastable sur toutes les plateformes de téléchargement, allez-y, faites-vous plaisir, Alex.
Ouais,
cliquez plaisir plusieurs avec Abby Williams.
N'hésitez pas à cliquer plusieurs fois.
Si vous voulez, cliquez plusieurs fois, même une fois, c'est bien déjà. Voilà, tu cliques toi?
Bien sûr que je clique.
T'es un cliqueur, toi.
Je clique tout le temps.
Tu cliques, toi, Erwan, t'as avec du clic?
Je clique à la salle, moi. Comme ça, je me mets le Stephen Brunch. Quand je suis pas là, je le réécoute.
Ah, tu
à la
réécoutes
salle. Non, je réécoute quand je suis pas là. Ah,
d'accord.
Ah, non,
mais qu'est-ce que t'en penses? Le mec à ta place, il est meilleur que toi ou pas?
Il faudrait qu'on règle ça.
La deuxième heure du brunch, on va parler de football dans un instant. C'est le deuxième duel de l'émission entre Erwan et Stephen. Croyez-vous en une Ligue 1 disputée? On vous attend au 32-16. On rappelle que le PSG a déjà 7 points de retard sur le leader Monégas. presque après 3 journées. Il y a déjà du monde sur le WhatsApp de l'émission. Vous pouvez nous joindre également 06 12 424 424. Vincent qui nous dit déjà oui, je vois une Ligue 1 disputée. On parlera rugby tout à l'heure avec la rentrée du top 14 hier soir et déjà un premier gros match pour l'Union Bordeaux-Bègles qui a battu le Racing 64-5. Ça sera le coup de cœur de Stephen. Il nous dit que l'UBB doit tout miser sur le top 14 et non la Coupe d'Europe cette saison. Et puis on parlera aussi de Formule 1 et d'UFC puisqu'hier elle a crevé l'écran. C'était le premier combat à l'UFC Paris du côté de Bercy. Delphine Benouèche sera l'invité du Stephen Brunch à 14h30 pour nous raconter ses débuts à l'UFC. Mais c'est parti pour le deuxième duel du brunch avec le football. Croyez-vous en une Ligue 1 disputée rapidement, Stephen, oui ou non?
Ouais, moi j'y crois un petit peu.
Oui, Erwan va nous dire.
J'y crois encore, comme Lara Fabian.
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
T'es résigné, t'es un mec résigné, toi? Pas vraiment, non. D'ailleurs, si tu me connais plus autant que tu le sais que non, je viens de dire n'importe quoi. Mais tu me connais assez pour savoir que
tu la réécouteras en podcast cette phrase.
Mais sur la Ligue 1, ouais, j'ai du mal à croire que tout peut se jouer dans les deux dernières journées.
Les amis, on rappelle que le club parisien, le PSG, est donc déjà 13e de Ligue 1, est à 7 points maintenant du leader de la Ligue 1, c'est Monaco, après 3 journées. Et forcément, on a posé la question à Luis Enrique en conférence de presse s'il y avait un petit peu d'inquiétude. Bah, écoutez sa réponse.
Vraiment, je pense que c'est une motivation incroyable pour mes joueurs, pour l'équipe, pour le club. Et si vous voulez parier qui va être le champion à la fin du championnat, on peut parier. Je ne dis rien. Mais pour nous, motivation, 7 points, ok. On va chercher de rectifier ça le plus vite possible.
Challenge accepted. Ouais, Luis Enrique, croyez-vous en une Ligue 1 disputée? On vous attend au 32-16. Stephen.
Déjà, Luis Enrique me régale avec sa phrase parce que tu sens qu'il a quand même une surconfiance en lui, une surconfiance en son équipe. Parce que bon, cette phrase-là, si jamais Paris Saint-Germain n'est pas champion, bon, on sait qu'il va se la reprendre dans les dents. Mais pour revenir sur le débat, écoute, une Ligue 1 disputée, moi, il me semble que ça a déjà été le cas un petit peu la saison dernière, hein, puisque les Lensois terminent à 6 points. Alors certes, pas de Coupe d'Europe, et ça aussi, c'est un argument pour le Paris Saint-Germain, parce que ses concurrents vont jouer la Coupe d'Europe, mais Lens, les dernières, s'il n'y a pas cette fin de championnat galvaudé, ce match reporté où il y avait quasiment une finale, en fait, ce Lens PSG à la fin, peut-être que l'issue finale est différente, mais je trouve qu'il y a déjà une Ligue 1 disputée. Il y a quelques années, Lens termine à un point aussi du Paris Saint-Germain, elle était disputée. Et ce que je trouve étrange, c'est que l'année dernière, avec la Coupe du Monde des clubs, on a fait tout un pataquès sur la préparation du Paris Saint-Germain, qui n'avait pas eu justement de préparation, qu'il fallait être indulgent. Ils avaient quand même pris 12 pions sur les 4 premiers matchs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Donc ce qui était déjà quand même pas mal, malgré le manque de préparation. Je te parle pas du contenu, je te parle juste du résultat brut. Ils avaient gagné 4 matchs. Et moi, je trouve que... je pense qu'il y a une ou deux équipes qui peuvent tenir tête. Je suis pas en train de te vendre que le Paris Saint-Germain va pas. Tu me regardes comme ça du coin de l'œil, Erwan. Je suis pas en train de te dire que le Paris Saint-Germain va pas.
La question, c'est disputer,
ça veut pas dire.
Repose la question du thème, Alex.
Okay, croyez-vous en une Ligue 1 disputée?
Donc, disputée, oui. J'ai envie de croire à un Monaco, à un Lille, être capable de prendre les devants, de tenir les devants un peu plus longtemps que prévu et laisser le PSG loin. Moi, je crois Monaco, ce qu'ils ont fait. Monaco, tu te rends compte qu'ils ont 9 points, ils ont joué PSG, ils ont joué l'OM sur la phase aller. C'est déjà correct. Mmh. C'est déjà
un bon début. Ils jouent
la Ligue Conférence. Il peut faire tourner quand même notre ami Philippe Louis sur la Ligue Conférence, même si je pense que Monaco a des ambitions pour gagner cette compétition-là. L'effectif monégasque devant, ils ont une armada puisque Logou n'est pas parti finalement, donc il se retrouve avec beaucoup de joueurs offensifs.
Il n'a pas été inscrit en Coupe d'Europe.
Quand Ansu Fati est blessé, il n'a pas encore démarré. Que Minamino est blessé, il n'a pas encore démarré. Je trouve qu'ils ont une énorme équipe, Monaco, pour éventuellement jouer les deux tableaux. Et à force d'avoir autant de certitudes et de jamais être inquiet, parce que le discours de Luis Enrique, il n'est pas inquiet en fait, Luis Enrique. À un moment donné, tu peux peut-être avoir un petit peu chaud aux fesses. Alors on sait que Luis Enrique, lui, son programme, il est fait pour avoir le pic de forme janvier-février, on l'a vu ces deux dernières saisons. Mais il faut absolument que les équipes ambitieuses pour éventuellement empêcher le PSG d'être champion... s'arrache sur tous les matchs et arrête de perdre des points contre des petites équipes. Elle est là, la clé. Monaco, Lille, Lyon, s'ils veulent un tant soit peu rester tout en haut et devant le Paris Saint-Germain, il faut que contre les moins bien classés, ils fassent carton plein et j'espère que ces équipes-là vont être capables de le faire.
On rappelle juste que Paris n'avait jamais non plus obtenu aussi peu de points en 3 matchs pour débuter la saison depuis 2011 et dans le pire des cas, le PSG finira donc le week-end à la 15e place, soit la même place occupée lors de la saison 2020-2021 où le PSG n'avait pas fini champion. question. Croyez-vous une Ligue 1 disputée, Arwan Abotret?
Non, j'y crois pas. Alors après, si on veut jouer un peu sur les mots, oui, disputée pour le maintien, disputée pour les places en Ligue des Champions, si vous voulez. Mais pour moi, tout ça se passe derrière le PSG. Aujourd'hui, on a quand même dans notre championnat une équipe qui est double championne d'Europe, qui a un vécu exceptionnel ensemble, qui a le meilleur coach d'Europe sur les deux dernières années. On peut même peut-être élargir un peu plus le spectre encore. Et je trouve qu'ils ont de la marge. Et puis, leur calendrier début de saison, c'est Rennes, Lille et Monaco. C'est donc ces trois concurrents directs. Et à la limite, vaut mieux
sur qui tu roules normalement, voilà, chaque année.
Exactement. Bah, l'année dernière, Monaco,
ils ont gagné deux fois l'année dernière.
Là, tu les prends d'entrée. En fait, cette équipe-là, les réalités du mois de septembre et du mois d'août, c'est jamais les mêmes qu'en avril et en mars. Enfin, moi, j'ai du mal à être.
Oh, mais ça, c'est parce que le PSG t'a inculqué ça. Mais en mode, ça peut changer ça aussi. Fait, c'est pas parce que c'est automatique quand même.
Ça fait 10 ans, Steph. On a quand même une fourchette. On peut se dire.
Sous Louis, ça fait pas 10 ans sous Luis Enrique. Je te parle des débuts de championnat un peu moins bien sous Luis Enrique. Il y a que 2 points quand même sur 9 possibles. C'est,
non.
Bah alors, dire que c'est une grande inquiétude tout ça, mais c'est très.
Mathématiquement, c'est peu, voire Paris 15e, même avec toutes les excuses qu'on peut leur trouver, c'est peu. Il n'empêche que cette équipe-là, pour moi, elle a une marge monumentale et que dès qu'ils vont s'ancrer. Et en fait, ce qui va être le début des Coupes d'Europe, ce qui peut être un problème peut-être pour l'enchaînement de certaines équipes, pour eux, c'est ce qui va lancer leur saison.
Positif.
Mais en fait, parce que c'est une équipe qui fonctionne comme ça. Moi, j'ai du mal à m'inquiéter pour cette équipe-là. Ils ont encore un deuxième titre de champion de Ligue des Champions dans la tête. Ils arrivent et on sait que des fois la Ligue 1, ils la prennent un peu par-dessus la tête. Et finalement, de mal commencer et de se dire oula, on court après certains qui sont devant nous.
Le sentiment d'urgence, ça va leur mettre un petit.
Je vois que mais, ça. Ils ont pas battu.
Moi, je trouve ça anormal de pas avoir battu une équipe de Ligue 1 sur 4 matchs.
Regarde, Monaco, tu perds. Honnêtement, la première mi-temps contre Monaco, ils dominent. Ils font une bonne première mi-temps.
Oui.
Après la deuxième mi-temps, ils sont pas très chanceux. Ils tuent pas le match. Enfin, dans le contre, oui, sur le score.
Ils sont pas bons en deuxième période.
Je te trouve sévère.
Okay. Eh ben, on va appeler Vincent au 32-16 qui va venir rejoindre la team Stephen dans ce duel. Salut Vincent.
Salut Vince.
Bonjour équipe de Stephen Brown.
Salut Vincent.
Ça va Vince?
Ça va et toi Stephen?
Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau là dimanche?
Petit dimanche en famille, petite sortie trottinette avec la grande, et puis on écoute le Stephen Brunch en même temps.
Très bien, parfait. Et cet après-midi, de regarder les matchs de Ligue 1
Non, faut peut-être pas exagérer vu le match de cet après-midi. faut être supporter pour le regarder quand même. Hein. Je pète les gens, faut être supporter pour le regarder. D'un autre côté, t'as quand même un petit Everton Manchester United.
Ah, très bien, t'es polyvalent sur les championnats européens.
Alors Vincent, tu penses que cette Ligue 1 va être disputée, toi, cette saison?
J'attendais le résultat de vendredi pour me faire un avis, mais ouais, j'y pense, parce que j'entends Paris va rouler sur tout le monde. Ouais, sauf que Paris, ils ont déjà 6 points de retard, donc 7 points de retard, donc ça fait... Faut que dans le même temps, pour rattraper Monaco, faut que Monaco perde 2 fois et ne gagne pas une 3e fois pour que Paris recolle. Paris en Ligue des Champions, quand la Ligue des Champions arrive et quand la Ligue des Champions, les matchs importants arrivent en fin de saison, à chaque fois, ils perdent des points, ils laissent traîner des matchs nuls, ils laissent traîner des victoires des petites équipes. Les dernières saisons, ça a toujours été le cas, même l'an dernier quand le championnat était serré. Cette année, peut-être qu'on peut espérer que la Ligue décide d'être enfin partiale et honnête avec tout le monde et qu'on ait un championnat qui ne soit pas truqué en fin de saison. Potentiellement, on peut espérer si Monaco...
Le mot est fort,
mais tu fais référence au match de Lens, bien sûr, de la saison dernière.
Ah ben, match de Lens l'an dernier, Lyon, début de saison, commence, Lyon, ils n'ont pas le match de repos, alors qu'ils l'auraient mérité, si on se base sur ce qui se passe, avant de le faire batcher, de se faire reposer le match de Toulouse, qu'ils ne l'ont pas, on peut espérer, maintenant que la Ligue soit un petit peu honnête, j'y crois pas, mais bon. Monaco.
Ah, regarde, elle était honnête parce que le match retour à Rennes, tu vois, il joue au parc.
Va dire ça au trésorier de Rennes, je pense qu'il va être d'accord avec toi.
Mais Vincent, tu sais que là où t'as raison, et j'avais pas fait ce calcul-là, c'est que c'est vrai que le PSG, sur le sprint final de Ligue des Champions, se permet souvent d'avoir pas mal d'avance en Ligue 1 et de pouvoir, après les matchs de Ligue 1, quand se jouent les quarts, demi, finale des champions, et ben, de faire tourner un petit peu et de lâcher des points. Si jamais, là, t'as urgence de points, mais ça, c'est dans un cas de figure où t'es un peu à l'arrache et tu dois absolument gagner les matchs de Ligue 1 et que t'es encore en lice en Ligue des Champions, ça peut être problématique, ça, Erwan, non?
Mais, alors, déjà, faut anticiper le fait que, Paris, se mette dans le même bourbier qu'ils se sont mis les deux dernières années dans les phases de poule de Ligue des Champions.
Passer par les barrages,
ouais. Donc voilà, t'es pas obligé non plus aussi de rater et tes débuts de Ligue 1 et tes
débuts en Ligue des Champions. Moi, je reste persuadé que ça va plus leur mettre un petit peu un pic en disant, bon, ce match-là, on peut pas le prendre par-dessus la tête. Et Vincent, quand je t'écoute, t'as raison sur l'aspect mathématique, mais on est mi-septembre. On est déjà en train de calculer comment on va recoller à Monaco. À Monaco, c'est à Noël qu'on fera un point, je pense.
Vincent.
Mais messieurs, juste par contre, il y a un point également que vous avez oublié dans cette conférence de presse que Luis Enrique a abordé. Il a clairement annoncé sur ce début de saison que sur plusieurs matchs, il a laissé des cadres de côté. Il l'a dit par rapport à l'absence de Lucadine, que cette année, il comptait faire souffler ses gars avec des cadres sur deux trois joueurs cadres. Sauf qu'au bout d'un moment, à faire ça, si tu as des joueurs qui se blessent, t'as pas la profondeur d'effectif.
Oui, ça peut être le cas pour beaucoup d'équipes, ça, l'aspect blessure. Maintenant, oui, quand Luis Enrique dit qu'il va faire tourner, Luis Enrique, il faut qu'il se rappelle qu'il a quand même signé Marnès Akliouche, Mika Götze et Lucas Digne et Ferran Torres. Donc, ça veut dire que ces garçons-là, s'ils faire tourner, c'est faire jouer Marnès Akliouche et Ferran Torres titulaire et Mika Götze, ça va, pour Luis Enrique, ça va aller quand même, non?
Oui, mais si t'as pas les remplaçants derrière et t'as de la casse en match quand tu laisses tes joueurs au repos et que tu te retrouves avec des mecs, avec deux attaquants de 17 ans à la place de Marnès Akliouche et Ferran Torres qui ont malheureusement une alerte particulière dans le match, tu vas pas gagner. Rappelez-vous les années, parce que Paris, ils ont une marge de manœuvre, c'est une certitude. Au complet, ils sont injouables, je suis d'accord, ils roulent sur toute la Ligue 1. Et comme je l'ai dit, devant, il faut que Monaco, ils perdent 7 points.
Vincent.
Que Lyon également perde des points.
Vincent, dans le duel, on va accueillir Cédric, qui lui est plutôt de la team Erwan. Salut Cédric.
Bonjour.
Salut Cédric.
Non, bah après, quand on voit la sûreté que dégage Luis Enrique, il n'y a pas de panique à bord. Alors oui, on est qu'au mois de septembre. Et 7 points, bon, ça peut paraître beaucoup et peu à la fois. Mais moi, il n'y a aucune inquiétude. Il est sûr de ses forces. Il sait quand il va être réveillé, pic de forme. Oui, je pense qu'il va arriver, il va pas tarder à arriver. C'est surtout le mois de janvier pour la Coupe d'Europe. Et Monaco, alors ça va être très très dur pour moi de parler parce que je suis supporter de Monaco. Mais ces matchs-là contre Paris, je suis jamais inquiet. Mais les petits matchs, on a toujours énormément de mal. Et c'est plus la motivation sur cette petite rencontre qui nous a fait défaut ces dernières saisons. Mais avec l'entraîneur, peut-être que ça va changer la donne. Mon Erwan, je sais pas si j'étais un grand défenseur, mais voilà, moi, je suis supporter de Monaco, donc c'est difficile de parler en mal. Mais je rejoins, voilà, je vais essayer de te défendre un petit peu, mais c'est pas
gentil,
évident.
C'est gentil,
Non, mais surtout, je pense que Luis Enrique aussi, il la voit peut-être aussi un petit peu plus longue qu'elle ne l'est, parce que ce qu'il a dit là en conférence de presse, je pense qu'il se rajoute une pression supplémentaire. Alors, il est habitué, hein, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est là où je rejoins Stéphane, c'est que si jamais Monaco ne lâche pas à l'abri, et c'est possible, hein, parce qu'il y a quand même Salisu, Minamino de blessé, bah oui, cette phrase-là, elle va lui revenir.
On part du principe de Vincent qu'après trois matchs de Ligue 1, on est sûr que Monaco, ils vont pas avoir un trou d'air dans la saison qui va. Monaco, au bout de trois matchs, on est déjà en train d'en faire un favori au titre. Moi, j'en suis pas encore là.
Je ne suis pas un favori au titre, non, moi non plus. Mais c'est vrai qu'il y a Salisu, Minamino, et puis il y a le facteur X aussi. Le facteur X, c'est peut-être Brunner, parce que quand vous voyez le début de saison qu'il est en train de faire, eh ben attention.
Et Lamine Camara qui reste finalement est un énorme facteur X pour ce Monaco, on l'a vu contre Paris. Merci beaucoup Cédric et Vincent d'être passés dans ce duel du Stephen Brunch. Croyez-vous en une Ligue 1 disputée? Vous êtes nombreux à répondre à cette question, notamment sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Je ne sais pas si je peux trancher sur cette question, c'est difficile, il y a beaucoup de nuances à avoir.
Ne tranche pas,
non monsieur. Moi je pense qu'elle va être disputée, la Ligue 1, mais derrière
troisième place pour le maintien.
Exactement.
Très très disputé.
Voilà, je suis peut-être un peu plus.
Parce que même Lens l'année dernière, magnifique saison, mais finalement c'est plié au bout de les trois dernières journées. On sait déjà.
C'est vrai.
Trois, quatre dernières journées, on sait déjà. Donc c'est quoi disputer en fait? Nous on peut se disputer, Steph. Tais-toi. C'est moi qui parle.
14h20 sur RMC, le Stephen Brun. Je continue dans un instant avec Erwan Abotret, avec Stephen Brun bien sûr. Et après le foot, on va passer au rugby. Le coup de cœur de Stephen arrive. Il a un message à faire passer à Yannick Bru, le manager de l'UBB. Restez bien avec nous.
RMC jusqu'à 15h, Stephen Brun.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
Le Stephen Brun sur RMC, il est 14h23 avec Erwan Abotret et Alex Biggerstaff, et c'est l'heure d'ouvrir la page Ovalie.
Et oui, Ovalie, parce que c'était le retour du top 14 hier soir avec le premier multi-rugby de la saison, et il y a une équipe en particulier qui a marqué les esprits. Pour en parler, on accueille Pierre Thévenet de la cellule rugby d'RMC.
Salut monsieur.
Salut la Thève, ça va?
Très bien, toi?
T'as régalé sur cette première journée de top 14?
C'était bien, j'ai eu un match serré, moi, contrairement à ce match.
Il y a beaucoup de matchs terminés à un point. Pas mal de matchs sont terminés à un point.
Ouais, c'était un beau multi. Le match de 21h était plus compliqué.
En revanche, il y a un match qui ne s'est pas terminé, hein. Un petit point d'écart, c'est loin d'être le cas. C'est l'UBB à la maison, Pierre, qui affrontait le Racing 92. Alors sur le papier, c'était un véritable choc, mais le résultat, lui, n'était pas du tout de cet avis-là. Hein.
Bah 59 points d'écart entre les deux équipes, 64-5, victoire de l'UBB qui avait mis la très très grosse équipe face au Racing. Le Racing qui enchaîne une deuxième très grosse défaite après celle en demi-finale face à Toulouse au mois de juin dernier. Et Bordeaux a vraiment remis les pendules à l'heure sur leur investissement dans le top 14, sur leur volonté d'aller loin dans cette compétition. On le rappelle, ils sont double champions d'Europe en titre, mais ils attendent toujours ce titre de champion de France.
Alors dans leur approche, qu'est-ce qui a changé significativement cet été pour se dire peut-être qu'on peut viser plus le bouclier de Brennus que le titre européen?
Et il va y avoir sans doute une remise en question de surtout comment ils abordent la Coupe d'Europe, parce que depuis deux ans c'était à fond pour cette compétition, notamment en phase de poule, essayer de prendre un maximum de points, parce que vous le savez, si ils sont la meilleure des équipes des phases de poule, ils reçoivent jusqu'en demi-finale, et donc ça simplifie grandement le parcours en Coupe d'Europe. Sauf que de faire ça, ça évidemment a un impact sur le top 14. Et l'année dernière, après la défaite face à Clermont dans la dernière journée de top 14 à Chaban-Delmas, Yannick Bru avait dit on va devoir repenser peut-être notre approche. Et au début de la saison, il nous l'a dit, c'est pas un sentiment de revanche mais une responsabilité qui les pousse à être beaucoup plus réguliers en top 14. La clé, ça va être de démarrer très fort ce championnat sur ce premier cycle de 6 journées, prendre le maximum de points pour pas être largué, parce que l'année dernière, après 6 journées, il n'est que 10e du top 14. Prendre un max de points au début pour ensuite pouvoir laisser un peu filer, comme Toulouse fait souvent filer sur la fin de saison, et garde de l'énergie pour les phases finales.
Alors attention, écoutez-nous bien, puisque Stephen a un message à faire passer à Yannick Bru. C'est son coup de cœur du jour.
J'ai pas de message à faire passer à Yannick Bru, parce qu'il le sait, mais Yannick, j'ai envie de lui dire, la Champions Cup, on s'en fout Yannick Bru. Tu l'as gagné deux fois, c'est super, elles sont dans la vitrine du club, mais quand tu te regardes la vitrine du club, tu vois ces deux trophées de Champions Cup, mais il y a un trou béant, et le trou béant c'est le Brennus. La Champions Cup, on va se dire la vérité, Yannick, elle est pas, c'est pas une énorme densité non plus, hein. Toulouse, UBB, le Leinster, La Rochelle ces dernières années, voilà, le Brennus c'est au-dessus, tout le monde sait que c'est au-dessus, tes joueurs aussi, ils savent que c'est au-dessus de cette Champions Cup. T'as une génération merveilleuse, des joueurs de classe mondiale, les Bielbarré, les Penaud, Lucu, Jalibert, Tom Willis, De Porter, Moefana. Il faut concrétiser et capitaliser sur ces joueurs-là. Il faut prioriser le top 14, et tu le sais, alors tu peux pas le dire forcément, mais tu le sais au fond de toi qu'il faut prioriser ce top 14. Il faut que tu joues les grands matchs pour prendre des points, pour terminer un ou deux. C'est ta priorité, terminer un ou deux du top 14. T'as rien à envier au Stade Toulousain. Il y a plus de complexe à faire vis-à-vis d'eux, parce que tu les as tapés deux fois en Champions Cup. Tu les regardes les yeux dans les yeux. T'as tout ce qu'il faut en magasin pour battre ce Stade Toulouse-là. T'as une profondeur d'effectif pour assumer à la fois le top 14 jusqu'au bout. Alors vas-y, fonce, arrête de faire tourner. Ça démarre la semaine prochaine à Ernest Vallon. Tu joues le Stade Toulousain. Tu fais péter la grosse équipe et tu vas faire un gros coup en les battant chez eux. Et Yannick, je te promets un truc. Si t'es champion de France, ta Rolex que tu t'es fait braquer cet été, je te l'offre. Alors elle viendra peut-être de Chine, mais elle est pour moi, ta Rolex, Yannick. Voilà.
Ça, c'est bien enregistré. On n'hésitera pas à la remettre, Pierre.
Oui, pour aller dans le sens de Stephen, rappelez-vous Laurent Marty, le président de l'UBB, après la finale gagnée face au Leinster, juste après la finale, sa réaction, c'est de dire si on veut inscrire le club dans l'histoire du rugby, il faut un Brennus au milieu de ces Coupes d'Europe. On se rappelle du Grand Toulon parce qu'il a gagné 3 Champions Cup, mais aussi un Brennus au milieu. Donc, c'est sans doute, Stephen a raison, le plus important.
Alors, il y a d'autres petits arguments, puisqu'on rappelle aussi que c'est une année anniversaire pour l'UBB, donc il faut aussi marquer le coup. Hein, les 20 ans de la création du club et la réunification du Stade Bordelais et du club athlétique Béglé, qui date de 2006. Et puis surtout, Pierre, tu me confirmes bien, mais les demi-finales du top 14 cette année se joueront à Bordeaux, effectivement. Donc, il y a des arguments.
Il y a tout, Yannick. Et puis, en plus, tes supporters bordelais, si jamais la Champions Cup, tu la gagnes pas, ils t'en voudront pas, Yannick. C'est pas grave. Si t'es pas premier de la Champions Cup, Yannick, c'est pas grave. T'es capable d'aller gagner à l'extérieur, Yannick. Tu le sais.
Eh ben, Stéphane, malheureusement, Marc, au 32-16 avec nous, supporter girondin, n'est pas d'accord avec toi. Il ne faut pas tout miser sur le top 14. Salut, Marc.
Bonjour, messieurs.
Salut, Marc.
Comment allez-vous?
C'est Marc Gazzotti.
assez simplement pourquoi, et c'est assez froid comme analyse. Déjà, il y a un truc dans le sport, on choisit pas sa compétition, c'est pas respecter le sport en lui-même, quel que soit le sport, rugby, foot, tennis, que vous jouez, il faut essayer de la gagner. Après, il y a deux choses. L'année dernière, parce qu'on a tendance à un peu l'oublier, mais l'année dernière, Bordeaux a foiré son début de saison, notamment parce que je pense qu'on est arrivé totalement cramé, pas bien préparé, mais parce qu'on a eu une masterclass de BC. Des joueurs absents pendant 3 mois, Lucu, Moefana, Big Ben, etc. Donc forcément, je me souviens, pour faire un petit clin d'œil à un commentateur de Canal, quand on envoie l'équipe B à Toulouse, on a plus d'une quinzaine de blessés. Là, par exemple, on va aller à Toulouse, je crois qu'on a un pilier valide à gauche. Ça risque d'être compliqué, donc il faut aussi penser que le championnat, c'est long. L'avantage du championnat de la Coupe d'Europe, c'est que c'est une semaine là, en octobre, puis on aura deux matchs et encore un match. On a le temps de revenir. Il faut jouer sérieusement, gagner en pensant que c'est long. Je pense qu'on a un effectif qui est plus étoffé pour pas faire n'importe quoi sur les trois premiers mois de la saison, contrairement à l'année dernière où on a eu beaucoup de blessés et où on a passé à côté de certains matchs. Donc je pense que les joueurs sont prévenus. Mais je pense pas que le calcul, ça soit on privilégie une compète plus que l'autre. On doit jouer, là on a 4 mois de top 14, tranquille, avec un seul match de Coupe d'Europe où il faut être sérieux et se mettre en position d'aller loin. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on a fait les 2 finales. Et la finale qu'on perd 33-36, ouais,
mais pourquoi vous la faites cette finale de top 14? Parce que vous êtes deux. Vous êtes deuxième.
Oui, il faut être deuxième. Ouais. Il faut être. Mais on a joué les deux compétitions à fond. L'année dernière, je rappelle quand même que cette année, on a une chance aussi. La Coupe d'Europe, elle sera un peu plus simple en poule. Parce que l'année dernière, c'est un déplacement en Afrique du Sud. On sait que les Toulousains, ils n'ont pas trop kiffé leur déplacement, puisqu'ils n'ont pas pu prendre le brenier.
Là, voilà, vous recevez les Sud-Af.
Là, on reçoit les Sud-Af. C'est surtout qu'on n'a pas
le champion d'Angleterre, l'ancien finaliste de la Coupe d'Europe. Donc, c'est plus simple aussi. Donc, on doit permettre de mieux gérer. Je pense qu'on a un effectif encore meilleur que l'année dernière. Mais je pense pas que le calcul, ça soit priorisé. Il faut être sérieux.
Mais sur prioriser, parce que cette Champions Cup, quand arrivent les matchs importants, tu sais très bien que le match d'avant en top 14, les mecs, bah, ils pensent à quoi? Bah, ils pensent à la Champions Cup parce que c'est des matchs couperés pour aller loin. Et le match d'après Champions Cup, tu peux pas faire jouer les mecs qui ont joué en Champions Cup aussi. C'est ça qui est pénalisant.
Mais Steph, ce qui est marrant dans ce débat-là, je vous écoute, c'est que, mais on découvre pas que entre une Champions Cup et le top 14, il y a pas photo, Pierre, entre
le prestige.
Entre le prestige.
Non,
enfin,
bien sûr.
On a eu une fantastique discussion avec Vincent Moscato, et justement, là, où je lui ai dit, mais Vincent, en fait, entre gagner la Champions Cup et le Brennus, il me dit, mais il n'y a même pas photo, en tout cas.
Non, mais la Champions Cup est un format, comme disait notre auditeur, qui correspondait mieux à Bordeaux, parce que c'est un format de sprint, quasiment, oui. Surtout quand il y a des blessés, où le jeu est plus aéré aussi, et où il faut gagner finalement 4 matchs, surtout quand c'est tout à la maison, sauf la finale. C'est presque plus simple, même s'il y a des matchs très compliqués à gagner. Le top 14, comme disait Stephen, si t'es pas dans les deux à la fin de l'interminable saison, c'est très, très dur d'aller en finale.
Parce que l'UBB, s'ils prennent une troisième Champions Cup, mais qu'au final, la génération Lucu, Bielbiaré, Jalibert,
ils
sont jamais champions de France. Mais on va leur répéter sans cesse, tandis que s'ils ont gagné 2 Champions Cup et 1 Brennus, ça va être une équipe légendaire.
Parce
en
que
fait.
L'année dernière, ils gagnent la Champions Cup pour la 2e fois. Génial, ils font la fête.
Ils sont pas dans les 6.
Mais derrière, t'es pas dans les 6. La fin de saison, je pense qu'il y a un goût à
canapé, play-off dans le canapé.
On va dire autre chose. Hein.
Allez, il faudra choisir peut-être ou ne pas choisir entre le top 14 et la Champions Cup. Donc pour l'Union Bordeaux-Bègles, merci beaucoup, Marc, d'être passé au 32-16. Il est 14h30. 31 sur RMC, le Stephen Brunch continue. Merci beaucoup. Pierre Thévenet, on te retrouve bien
merci
sûr sur le top 14 sur RMC. Et je vous rappelle que ce soir, il y a le dernier gros match de cette première journée entre La Rochelle et le Stade Toulousain. 21h05 à suivre sur RMC. Dans un instant, on va parler MMA. On va parler combat avec l'UFC et celle qui a ouvert l'énorme UFC Paris d'hier à Bercy. Si vous étiez là-bas, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16 pour témoigner un petit peu de l'ambiance. Delphine Benouèche, elle a remporté son combat face à Sofia Montenegro. Elle va témoigner dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, Stephen Brunch.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
14h33, le Stephen Brunch. C'est Erwan Abotrette, Alex Biggerstaff. Et on va accueillir celle qui a ouvert la carte de l'UFC hier à l'Accor Arena, Delphine Benouèche qui va être avec nous.
Elle n'a pas couvert la carte.
Elle a ouvert l'arcade aussi.
Et oui, l'UFC Paris, c'était un événement hier. C'était la première dans l'octogone pour ses débuts à l'UFC. Delphine Benouèche est l'invitée de Stephen Brunch.
Salut Delphine.
Salut.
Comment
merci
vas-tu?
De me recevoir.
T'es en forme?
Écoutez, ça pourrait pas aller mieux.
Un bon réveil ce matin, pas d'hématome?
Bah, il y en a toujours un petit peu, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Hein.
Moins de ton adversaire, en tout cas, quand même.
Oh là.
Ah ouais.
Delphine, on rappelle que ouais, tu combattais dans la catégorie poids paille, donc face à Sofia Montenegro, l'Argentine, et tu as marqué les esprits en soumettant donc ton adversaire au 2e round. Au terme, on peut le dire, d'un affrontement particulièrement âpre. Il y avait beaucoup de sang, et je crois même que tu as dû t'excuser en conférence de presse auprès des agents de service pour ce qu'il fallait nettoyer dans l'octogone.
Oui, ça, c'était pour l'humour, mais plus sérieusement, je trouve que en fait, elle mérite énormément de respect parce que bah, déjà, il faut être deux pour faire un beau combat. Et elle a rien lâché. Tu vois, les coups de coude et les ouvertures, ça l'a pas empêché de continuer de se battre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la soumission quand j'ai entendu qu'il restait qu'une minute. Et même là, elle a pas voulu taper, elle a préféré dormir. Donc, j'ai énormément de respect pour le dévouement qu'elle a mis dans le combat et dans la cage. Et enfin, vraiment, ça m'a laissé sans voix. Et après, bah, quand on était au médical, on l'a croisée et franchement, j'avais trop mal au cœur de la voir. Et je suis déjà passée par ces combats. Enfin, j'ai déjà eu un combat difficile comme ça où je me suis fait ouvrir moins que ça. Mais je sais que ben, plus qu'avoir mal partout, t'as surtout mal au cœur. Donc, j'allais pas me sacrifier pour elle parce que c'était soit elle, soit moi. Oui. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que mes pensées vont pour elle et sa famille.
Mais ça existe des championnats empathiques, hein. C'est tout à fait normal.
C'est quand même un contraste dingue dans ce sport-là où t'es dans une cage et tu dois détruire l'adversaire, quitte à ce que ce soit même un petit peu sale avec du sang, et puis recroiser l'adversaire et avoir mal au cœur parce que tu l'as fait souffrir. C'est quand même un drôle de
contraste. Tu l'as pas fait sur des parquets, toi?
Non, pas du tout. Enfin, j'ai fait souffrir des gens, mais j'avais pas d'empathie surtout.
Delphine, on rappelle que tu es passée par The Ultimate Fighter. C'était en gros la télé-réalité de l'UFC. T'as été jusqu'en demi-finale et c'est ce qui explique aussi ton apparition hier à l'UFC Paris. C'est parce que toi, t'as décidé d'aller voir directement le grand patron, les yeux dans les yeux, et lui dire il me faut une place à l'UFC, c'est ça?
Grosso modo, c'est ce qui s'est passé, ouais. J'ai eu la chance de pouvoir directement demander mon contrat. Et c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver plus tard, mais l'UFC, c'est tellement une forteresse impénétrable que faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et des fois, c'est pas suffisant, même quand on fait tout sérieusement, tout bien. Donc des fois, ouais, il y a un petit supplément d'âme, un peu d'audace en plus qu'il faut aller mobiliser pour avoir le contrat.
Et ça, c'est le genre de truc qui plaît à Dana White. En plus, quand tu sors des sentiers battus, c'est toi qui vas taper à sa porte pour lui dire « Grand, mets-moi, je vais te régaler ». Ça lui plaît, je suis sûr, non?
Je sais pas, parce que je me dis, en fait, il doit avoir tellement de gens qui lui demandent tout le temps plein de trucs que je sais pas si ça lui plaît ou ça le saoule, mais en tout cas, il n'a pas rechigné à me signer. Et j'espère que ça l'a conforté dans son choix, la performance d'hier.
Par contre, Delphine, si ça l'a conforté dans son choix, peut-être, mais il a pas sorti de porte-monnaie pour toi, parce qu'on sait qu'il y a des bonus, il y a des bonus à l'UFC pour ceux qui font des gros combats, des gros KO.
Toi,
t'as fait un match, toi, t'as fait un combat exceptionnel, il t'a pas lâché le petit bonus, Delphine.
Ouais, franchement. Mais après, en vrai, en général, quand t'es en début de prélim, t'es même pas dans le débat des bonus. En fait, l'UFC, ils donnent l'argent aux gens qui sont déjà riches. Mais, déjà, je suis contente qu'il y ait cette espèce de petit débat sur Instagram avec les gens qui me taguent sur le post du bonus. Rien que ça me fait plaisir que j'ai eu le Fight of the Night du peuple. Ça remplit mon cœur de joie.
C'est vrai que l'ambiance était complètement dingue. C'était le premier combat à l'Accor Arena qui était déjà rempli. T'as mis une ambiance de fou.
C'est ça, d'habitué, cinquième édition.
Et ça t'a même transformé un peu, excuse-moi l'expression, en sauvageonne dans la cage, cette ambiance.
Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup été portée par le public. J'ai l'impression que c'est le meilleur du monde. Après, j'ai pas été non plus aux quatre coins de la terre, mais le public français, il me fait toujours un effet super particulier. Et toutes les fois où j'ai pu combattre à Paris, je me sentais vraiment comme l'enfant du peuple.
Petite question, Delphine, est-ce que tu as eu une des primes de finition qui est de l'ordre de 25 000 dollars, je crois? Est-ce que tu l'as eu pour le combat d'hier?
Ouais, tous ceux qui ont fini leur combat l'ont eu.
25 000 dollars, donc. On est loin de ce qu'on peut toucher quand on est prof de PS, par exemple, non?
Sur l'année, quoi.
C'est quand c'est net. Là, sur les 25 000, je vais pas du tout toucher 25 000 parce que, il y a des impôts.
Ah oui, puis en plus, les impôts, c'est à côté, c'est en face. Merci, en plus. C'est juste en face. Merci pour les impôts.
Voilà. Comme ça. Ils peuvent se servir au passage. Enfin, oui, il y a les managers, il y a les coachs, etc. Donc, ça, c'est pas 25 000 pour moi. Mais c'est moi qui rentre dans la cage, mais je travaille avec toute une équipe au quotidien, donc la performance n'appartient pas qu'à moi.
Mais Delphine, donc on a appris que tu étais prof de sport, ça devait. En général, quand on a sport au collège, c'est là où on est le plus turbulent, ça devait filer doux avec toi quand même les cours.
Après, je suis aussi douce dans la vie que quand je fais mon métier. Il y a vraiment que dans la cage où je fais preuve de violence, c'est même pas.
Mais quand tu demandes un carnet, j'imagine que tu ne le demandais pas deux fois, quoi.
En général, ils sont gentils avec moi.
Tu m'étonnes. C'est quoi la suite, les ambitions, Delphine? Est-ce que t'as fait un call art? Parce que c'est bon, les gens, ils aiment bien dire, tiens, je veux elle.
Tu réclames un combattant.
Tu réclames un combattant. Ouais.
Non, moi, je réclame personne et j'accepterai ce qu'on va me donner. Donc, j'attends juste que le téléphone il sonne et après, j'en saurai plus. En fait, je me dis, si mon téléphone il sonne bientôt et que on me propose quelque chose, j'irai. Si on me laisse plus de temps pour progresser, m'organiser, je le ferai aussi. Enfin, tout me va, il n'y a pas de mauvaise solution.
Merci beaucoup Delphine Benoît, combattante UFC.
Merci beaucoup Delphine, bravo, félicitations.
Merci à vous.
Repose-toi bien surtout.
Oui, et j'aimerais juste, si c'est possible, remercier tous mes clubs, le MMA Performance Center de Nicolas qui va ouvrir la semaine prochaine, le Fight Industry avec H à Evry, le Mamoudi Gym avec les frères Mamoudi, Max qui s'occupe de moi en lutte, Mehdi en grappling, Georges en prépa physique à R15 au studio à Paris. Donc si je pouvais les remercier.
Eh ben c'est fait, Delphine, ils t'ont entendu.
Et
si t'as une Renault Clio à vendre aussi, tu peux le dire.
Non, j'ai pas de Renault Clio à vendre, désolé.
On remercie le professeur Saillant aussi qui recoue les adversaires.
Voilà, merci à lui.
Merci beaucoup,
Delphine. Et on remercie Clémentine qui s'occupe de la com et qui t'a permis d'être là aussi, Delphine.
Oui, bien sûr, et JB, mon manager.
Voilà.
Delphine Benouèche, combattante UFC, donc qui a disputé son premier combat à l'UFC hier soir lors de l'UFC Paris. Et donc, il a remporté son combat face à Sofia Montenegro, était l'invité du Stephen Brunch. D'ailleurs, Saladin Parnasse, qui faisait partie du main event hier soir.
Saladin,
combat sera l'invité de Bartoli Time ce soir à 19h30 sur RMC. Il nous reste quelques minutes dans ce Stephen Brunch. Stephen Erwan, je vous propose de faire un petit flashback. C'était sur RMC, c'était hier, il était quasiment 17h et là, sorti de nulle part.
Les derniers pilotes vont passer maintenant sous le drapeau d'Amiens. Ça va être le cas de Gasly fait la pole. Gasly décroche la pole, incroyable. Incroyable, le pilote français qui s'était imposé ici, je le rappelais tout à l'heure, décroche la pole position. C'est absolument fabuleux ce qu'a fait Pierre là. C'est même la première pole position de sa carrière de pilote de Formule 1.
La première pole position de sa carrière en Formule 1, Pierre Gasly au volant de son Alpine, et même le premier français depuis 29 ans, en 1997, depuis Jean Alési, à obtenir une pole position en Formule 1. Et c'était déjà à Monza à l'époque. Il a commenté ses qualifs. Il est chaud pour le Grand Prix qui va partir maintenant dans un gros quart d'heure. Jean-Luc Roy est avec nous dans le Stephen Brunch. Salut Jean-Luc.
Ah oui, chaud bouillant, c'est le cas de le dire. Salut Alex,
salut Jean-Luc,
salut Erwan, et bonjour à tous.
Même toi, tu crois pas quand tu commentes la Q3. T'es surpris.
Et tu sais, ils ont vachement bien joué le coup, hein, parce qu'ils sont sortis en dernier pour la dernière tentative, donc en Q3. Ils ont laissé partir les McLaren devant, Verstappen, les Ferrari, et ils ont profité très intelligemment de l'aspiration dans les longues lignes droites, et ça sort de nulle part. Personne s'y attendait, même pas eux. Alors c'est fabuleux, c'est génial.
Bravo.
Ça va être exceptionnel à suivre. Le grand départ donc à 15h avec toi Jean-Luc sur RMC. Il est en pole position. Monza, c'est un circuit particulier. Jean-Luc, est-ce que c'est pas la meilleure place quand on est devant? Parce que Oscar Piastri parlait lui d'un début de course sans doute chaotique à prévoir là dans les prochaines minutes. On rappelle que Piastri va partir en troisième position, hein, donc pas très loin derrière Pierre Gasly, qui avait déjà remporté la course à Monza en 2020. Donc il connaît aussi bien ce circuit. Est-ce que c'est pas le meilleur avantage d'être poleman avec les conditions de course à suivre?
Écoute, c'est toujours bien d'être devant. Le seul problème, c'est la distance entre la pole position et la première chicane. Tu sais, la variante del rettifilo, il y a 476 mètres, ce qui est énorme. Et ça veut dire que immédiatement, la Mercedes de George Russell, qui part évidemment en première ligne, à côté va prendre l'aspiration. Et puis, vous savez à quel point les Ferrari ont été rapides au moment du départ, depuis le début de la saison. Et les deux Ferrari, elles sont là, juste positionnées là où il faut, avec Charles Leclerc troisième et Lewis Hamilton quatrième, porté par tout un peuple, on peut dire. Donc je pense que là, ça va être chaud bouillant, et je te dis, faudra pas attendre longtemps. Je sais pas si Pierre pourra se maintenir longtemps devant.
J'allais dire, est-ce que Pierre a l'habitude de gérer cette pression-là qu'il va avoir? Parce que quand t'as 3-4 mecs derrière, qui eux se disent, c'est Pierre Gasly en pole, on va le manger tout cru avant le premier virage. Est-ce que Pierre Gasly est équipé, la voiture certes, mais équipé dans la tête et dans le pilotage pour tenir ça?
Ah ben équipé, on peut lui faire confiance, c'est un garçon solide. Mais tu sais, pour répondre à ta question, ça fait 191 tentatives qu'il essayait de décrocher la pole. C'est le deuxième d'ailleurs dans l'histoire de la F1 derrière Pérez. Il lui a fallu 219 tentatives. Donc l'habitude, non. Alors maintenant, il est programmé dans sa tête, je peux dire qu'il a pas dû beaucoup dormir. On sait qu'il habite Milan, hein, donc c'est un régional de l'étape. Et, mais je pense que il va tout faire. Alors, il y a deux options. Hein. La première, c'est de se maintenir à tout craint. La deuxième, c'est de laisser éventuellement quelqu'un se rater au freinage parce qu'on va partir avec les pneus pas tout à fait en température et puis avec les freins dans le même état. Donc il y a peut-être des gens qui vont tirer tout droit. Moi je fais le pari qu'il y en a un ou deux qui sont pas capables de passer la chicane au moment du départ.
Faudrait pas que ce soit Pierre là, non plus.
Jean-Luc, voilà, faudrait pas que ce soit Pierre.
Jean-Luc, avec cette pole position sur ce circuit particulier, on veut la gagne ou on veut un podium ou parce que derrière la pole position, il faut confirmer sur la course. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour Pierre? Il peut vraiment gagner ce soir, enfin cet après-midi.
Alors il peut, bien sûr il peut gagner, il part en pôle, il peut gagner. Je pense quand même qu'il faudra des circonstances particulières, comme lors de sa victoire de 2020 avec AlphaTauri, hein, c'était un truc incroyable. C'était au moment du Covid en plus, c'était des tribunes qui étaient quasi vides, etc. Et tout le monde se rappelle de cette image où il était assis sur le podium en train de réaliser, après il n'y avait pas eu la marée humaine malheureusement. Donc oui, il est intelligent Pierre, il a 30 ans, il a donc beaucoup de métiers, maintenant il a presque 200 Grands Prix au compteur. Il va faire ce qu'il faut avec la complicité, avec le soutien de toute l'équipe. Maintenant, je te dis, un podium, ce serait fabuleux. Dans le top 5, c'est déjà formidable.
Et ouais, on rappelle d'ailleurs, Stephen, Erwan, Jean-Luc, que parmi les pole sitters surprises, hein, un petit peu comme Pierre Gasly dans le passé, un seul a finalement remporté le Grand Prix derrière. C'était Pastor Maldonado en Espagne en 2012. Il avait fini premier du Grand Prix. Donc c'est difficile.
Pas,
il y avait...
pas bon à prendre en quiz, lui. Hein. Pastor Maldonado, il y a que Jean-Luc qui peut le trouver. Pastor Maldonado.
Là, c'est pas évident.
Et dis-moi, notre leader du championnat, là, Kimi Antonelli, il part de loin.
Ah bah attends, alors il a déjà gagné 3 places hein, sur le tapis vert, il devait partir dernier, mais il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus pénalisés que lui, donc c'est absolument incroyable, mais c'est comme ça. Donc il va partir 19e pour te répondre sérieusement, il y en aura un autre derrière pénalisé encore plus lourdement, c'est Alex Albon avec la Williams, et puis il y en a deux qui partiront depuis les stands, c'est le pauvre Fernando Alonso et Liam Lawson avec l'autre Red Bull.
Il part
19, voilà, exactement. Il remplace Adjar qui est toujours blessé au poignet. Donc, si tu veux, on va s'attendre également. Ah, il y en a des enjeux. Il y a Pierre Gasly devant. Il y a George Russell là. Il y a les Ferrari. Et puis, il y a la remontée qui va être forcément météorique d'Antonelli. Je peux vous dire que là, il y a de la tension sur la grille.
Hein. Et ça va être dans 12 minutes à suivre sur RMC. Voilà, c'est comme bien vendu. La grande question est de savoir si donc Pierre Gasly peut transformer ce samedi exceptionnel d'hier en un dimanche absolument historique.
C'est l'heure de te mouiller quand même, 12 minutes avant le départ. Pierre Gasly, il fait combien?
Pardon, je me mouille. Oui. Ah, bah, je te dis, moi je rêve d'un podium. Troisième, ce serait génial.
Troisième pour Pierre Gasly, très bien, c'est noté.
Tu dis quoi toi, Steve?
Moi je vais dire cinquième.
Cinquième, Erwan.
Ah, moi je veux dire, il sort au premier virage.
Non, c'est pas terminé. C'est affreux, je t'ai pas entendu.
Je rejoins Jean-Luc, je vois sur le podium.
Très bien. Alors, rendez-vous dimanche prochain pour débriefer, c'est pour le stick. Alex, non, ça t'intéresse pas de dire.
Tu veux que je me mouille? Ouais, allez, podium. Podium. Je te précise pas où.
Il se mouille, mais la nuque.
J'ai le rôle d'honneur cette année de pouvoir
prends les risques, Alex. C'est mérité.
Pas sur la Formule 1.
Pourquoi t'as trop peur?
Non, mais je vais suivre Jean-Luc dans 10 minutes.
Très bien. Et ben, on va suivre ça. Restez bien avec nous. C'est à 15h le départ.
Oui.
Avec Jean-Luc Roy.
Et il y aura 3 Strasbourg en Ligue 1 également.
Et Christophe Cessieux arrive.
Ça c'est peut-être
encore au-dessus du départ du Grand Prix de Monza, l'arrivée de Christophe Cessieux.
C'est imminent. Merci Jean-Luc, à tout de suite.
Merci beaucoup Jean-Luc, à tout de suite. C'est l'heure de se quitter. Merci Erwan, merci Alex, merci à vous.
Merci Steph, merci Alex.
N'hésitez pas à
podcaster
l'émission. Merci Jimmy Brandt, bien sûr. Jimmy Brandt qui est là avec nous, hein, 14h50, c'est très bien.
C'est notre
Christophe Cessieux, la Ligue 1, le Grand Prix de Monza, tout ça, vous le savez. C'est sur RMC et nous on se donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.